Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission On en jase. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, midi 1 exactement. Bon. Le midi, Gilto, c'est pas Gilto qui a un gros midi présentement, mais c'est Pablo. Parce que Pablo Rodriguez s'est pris la chicane à l'intérieur du parti. Marois Risky qui a congédié Geneviève Hines, sa chef de cabinet. Qui était la chef de cabinet par défaut de Marois Risky parce que Pablo Rodriguez n'est pas à l'Assemblée nationale. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Pablo, il a dit à Marois Risky, bye-bye! Tu quittes le caucus du Parti libéral. Alors, très gros midi pour Pablo Rodriguez. Il est derrière des portes closes présentement à LCN. On filme la porte. Donc, j'ai hâte de voir Pablo sortir. Je vous le dis tout de suite. Dès que Pablo sort, on s'en va en direct à la TV et entendre ses commentaires. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que tout le monde aussi.
Mais hein, Anthony Niacarini, comment tu vas?
Ça va bien. Je suis en train de prendre des photos de la télé parce que il est écrit, c'est plus dernière heure. Il est écrit dernière minute.
Dernière minute.
Puis là, je me disais vraiment l'histoire de la porte, là, c'est
ben
ça.
Oui, parce
là,
que là, on de minute en vraiment. Minute. Ben, moi, ça fait depuis 11h15 que j'attends que la porte ouvre. Avec une excitation d'un enfant qui a hâte à un cadeau de Noël.
Je seconde. Tu es effectivement très excité par cette crise politique au Parti libéral. On va manquer de popcorn.
J'aime ça, le chichi, moi, politique. C'est le fun.
Arrête
ça,
il y en a que je préfère, mais mettons, lui, je le trouve quand même gros. Fait que j'ai hâte de voir tous les détails.
Ah oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très gros. Et d'ailleurs, on va en parler dans le caucus avec Antonine Niacarini dans quelques instants. Mais avant, Pascal, c'est bon, on s'en va rejoindre quelqu'un parce que dis-moi là, moi, mon X marchait pas à matin, puis j'essayais de me commander des coupons sur Mercado, puis là, il n'y avait rien qui marchait.
Ton nouveau Twitter fonctionnait pas, les textos avec les auditeurs fonctionnaient pas, des sites de consommation fonctionnaient pas, et encore plus, pourquoi? Ben, c'est ça qu'on se pose comme question, puis moi, je me dis, on va aller parler à Patrick Mathieu, expert en cybersécurité qui est à l'autre bout du fil pour nous éclairer, parce que j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, puis y a-tu quelque chose à comprendre de ça?
Quelle bonne idée! Patrick Mathieu, comment vas-tu?
Hey, ça va bien.
Hey, merci beaucoup pour ta disponibilité ce midi. Patrick, explique-nous ça. Pourquoi il y a une panne majeure comme ça à l'heure actuelle?
C'est des choses qui arrivent, mais c'est arrivé là à peu près vers 7h du matin, plus ou moins. Cloudflare, qui est le concept là, initial, il offre beaucoup de services, mais le concept initial, c'est que c'est une protection de sécurité qu'on met devant nos sites web, nos infrastructures, etc. Puis toute requête, mettons qu'on va sur votre site, ça passe par eux avant d'aller sur le vrai site web, le vrai serveur. Mm. Et le problème, c'est qu'ils contrôlent, un peu comme le crash qu'il y a eu il y a quelques semaines là, avec AWS, et c'est qu'ils contrôlent une grande partie des organisations sur la planète. Fait qu'il y a à peu près 20% d'Internet qui est tombé à cause d'un problème. On ne sait pas encore c'est quoi le détail. C'est résolu, mais en partie. Fait qu'il y a des choses qui sont là. Mais tu vois, là, à peu près 20 minutes, la dernière mise à jour, ils disent qu'ils vont encore des erreurs, ils vont encore des problèmes. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Mais là, ça...
On se demande quand même.
C'est un wake-up call aussi, là.
Ben, ouais. C'est ça. T'sais, rapidement, Patrick, on a parlé de ça souvent ensemble. Qu'est-ce qui pourrait être derrière? Souvent, on va parler peut-être d'un hacking. Peut-être qu'on va juste parler d'un problème, mais en même temps, on voit à quel point ça peut être important, les conséquences de tout ça. T'sais, là, on s'entend, Boulevard, le site là, qui soit en panne pendant quelques heures, c'est pas grave. Nos auditeurs nous écoutent sur les ondes, puis ils s'en font pas avec ça, mais il y a aussi d'autres sites pour lesquels ça peut être très problématique, surtout quand on comprend pas ça vient d'où, non?
Oui, tout à fait. Puis là, on parle, ça protège les sites web, mais il y a aussi des architectes, des services qui protègent les infrastructures informatiques. Fait que ça se peut que ça ait impacté des choses là, un peu plus critiques, puis on le saura évidemment plus tard, là, mais si on parle de systèmes en arrière des hôpitaux et autres, je ne sais pas si c'est allé jusque-là, mais il y aurait potentiellement problème. Puis la chose, c'est que vu qu'on dépend de cette organisation-là, parce que évidemment, c'est les plus reconnus, c'est les plus gros, c'est les moins chers, etc., ben quand il y a un problème du genre, ben on dépend d'eux. Fait que là, on tombe dans le concept là, du single point of failure, la seule un item spécifique là, qui fait tout planter. Fait que là, il faut que nos organisations se disent que quand il y a ce problème-là, il faut deux types de services pareils, qu'on passe de un vers l'autre s'il y en a un qui brise. Mais là, on dit ça aujourd'hui, on en parle à la radio, mais je suis sûr dans deux semaines, si on s'en reparle, Pascal, tout le monde va l'avoir oublié, puis il n'y aura pas de problème de régler, puis on va revoir ce problème-là se répéter éventuellement. Là.
Est-ce que ces grandes plateformes-là, et en terminant, Patrick, est-ce que ces grandes plateformes-là vont avoir du travail à faire justement pour améliorer la situation?
Bien, ça, c'est certain. Puis souvent, puis on va voir si c'est le cas-là, souvent, là, c'est un problème qui ont fait une mise à jour, qui ont changé quelque chose dans leur système, mais ils l'ont mal fait ou ils ont mal pensé à leur affaire, puis ça a planté, fait qu'ils vont s'ajuster comme ça. T'sais, si on recule d'un an et quelques, il y avait eu le crash là, de CrowdStrike qui avait impacté des millions de systèmes sur la planète, les aéroports, les hôpitaux et tout, parce que leur mise à jour n'avait pas fonctionné. C'était rien de malicieux. Mm-hmm. Mais c'était mal foutu, si on peut dire. Mais en même temps, qu'on dépend d'un logiciel comme ça qui s'installe dans nos choses, puis qu'on dépend de lui, il faut quand même une solution pour le retirer, pour avoir nos systèmes qui continuent. Parce que comme vous dites, oui, le citoyen de notre radio, c'est peut-être pas grave, mais quand on parle de banque et de gouvernement, là, l'impact peut être différent. Là.
Pour peut-être conclure là, cet entretien-là, Patrick, est-ce qu'il y aura possibilité pour le public de connaître qu'est-ce qui s'est passé où on va protéger l'information et donc pas être en mesure d'évaluer la gravité ou pas de l'incident?
Généralement, ce type d'entreprise-là vont aller être assez transparents pour aller dire qu'est-ce qui s'est passé puis comment ils ont résolu même le problème. Là, il va y avoir un genre de post-mortem assez technique. On espère que ça va arriver encore, là, mais généralement, c'est le cas. Il y en a eu plusieurs dans le passé, tu sais, dans la communauté, il y a comme une petite blague qui est souvent, c'est l'erreur du stagiaire, mais c'est déjà arrivé pour vrai de grandes entreprises qui un stagiaire a fait une mise à jour, tout a planté. Mais là, c'est devenu une blague parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui mettent ça sur cette faute-là. Là, je me surprendrais que ce soit ça, mais ça se peut que ce soit une erreur tout simplement humaine là, qui a mal vérifié leurs choses. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait, oui, le détail. Puis je pense qu'à l'impact, tu sais, si on parle de plus de 20% d'Internet, sont mieux de faire un post-mortem assez transparent. Okay.
Patrick Mathieu, expert en cybersécurité, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce midi et on se reparle au besoin.
Tout à fait, merci. Là.
Salut, merci beaucoup. C'était Patrick Mathieu, expert en cybersécurité. Pascal, tu veux nous rappeler, c'est une panne majeure qui est produite présentement et qui met justement en panne plusieurs sites de médias sociaux, notamment la plateforme X.
Panne majeure de Cloudflare, il l'a dit, Patrick. Alors, beaucoup de sites qui sont perturbés. Hein. Ça va de l'accès à des réseaux sociaux à plein de jeux multijoueurs, à des robots conversationnels, entre autres ChatGPT, si vous cherchez votre collègue pour certains ce matin. C'est très complexe. Puis, il faut désactiver temporairement certains services pour les utilisateurs du Royaume-Uni pour faire, en fait, une résolution du problème. C'est capoté quand on dit qu'on n'est pas maître d'œuvre là, là-dedans. Ça s'en va même à travers le monde pour essayer de rétablir le système. Mais oui, puis tu sais, il y a des sites transactionnels, il y a des sites commerciaux, il y a énormément d'accès, puis il nous manque à savoir est-ce que ça a touché des structures gouvernementales, entre autres. Puis ça va être un questionnement supplémentaire.
Exactement. Donc, ça va être à suivre. Merci beaucoup, Pascal, pour cette information. On passe directement au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
J'ai les yeux rivés sur le téléviseur en studio. La porte est toujours fermée. Pablo Rodriguez a réuni sa gang. Il a dit « Dehors, Marois Risky! » André Fortin, tu t'en viens leader la chambre. Puis Marc Tanguay, tu t'en viens comme whip. Antonine, on l'a pas vu venir, celle-là?
Ben non, on l'a pas vu venir de l'extérieur. Puis c'est ça le fond de la chose avec Marois Risky, c'est qu'elle est très populaire. Les gens l'aiment beaucoup. C'est une redoutable communicatrice. Mais c'est sûr qu'à l'interne, disons, sa cote d'amour était variable parce que c'est ce qu'on appelle une députée... comment dire? C'est payant, mais elle travaille beaucoup pour elle, selon les dires de plusieurs. Et là, je pense qu'elle a fait une gaffe majeure et elle est allée un peu trop loin. Je ne sais pas si le pouvoir d'être dans le bureau de chef parlementaire lui a monté à la tête, mais elle a décidé, Marois Risky, de sacrer dehors sa directrice de cabinet. Et là, c'est là que c'est bizarre, parce que c'est sa directrice de cabinet, oui, parce qu'elle est chef parlementaire, Mais c'est la directrice de cabinet de Pablo Rodriguez, en fait, parce que c'est son allié de toujours, Geneviève Hinze, qui a été sa directrice de cabinet à Pablo Rodriguez au fédéral. Donc, et un peu, c'était la personne de confiance pour Pablo Rodriguez, une assise importante au sein de l'aile parlementaire, lui qui n'est pas député, qui n'est pas nécessairement toujours dans le bureau du chef de l'opposition. C'est vraiment Mme Risky. Donc, elle a pris cette initiative, Mme Risky. Il semblait qu'il y avait des mésententes sur la stratégie à adopter et que Marois Risky n'était pas d'accord avec les orientations qui étaient proposées par Geneviève Hinze. Et il lui a dit « ça marche pas, tu t'en vas ».
Mais là,
t'as pas le pouvoir de faire ça.
Oui, parce que c'est Pablo Rodriguez qui l'a engagé et pas elle.
Ben, oui puis non. Oui puis non, parce que quand tu travailles à l'Assemblée nationale, ton boss, ton employeur, c'est ton député. Donc, les gens qui travaillent sur le payroll de l'aide parlementaire du Parti libéral, ils sont à l'emploi de la députée de Saint-Laurent.
De Marois Risky.
De Marois Risky.
Parce qu'elle était la chef.
Donc, en termes de RH de base,
oui,
elle a le pouvoir de mettre du monde à la porte.
Ouais.
Mais politiquement, en termes de loyauté puis de travail d'équipe, c'est sûr que la légitimité, elle est entre les mains du chef qui a gagné la course à la direction, le chef du parti. Quand le chef de parti est député, ben, tu joues les deux rôles, le chef de parti puis le chef de l'opposition. Donc, tu es l'employeur de tes employés. Mais là, ils sont dans cette situation étrange. Puis Marois Risky qui a décidé de prendre une décision unilatérale. Les employés, les députés, les officiers même du parti, donc quand on parle de whip, leader, etc., tout le monde a appris ça via un courriel hier soir, dans lequel on disait « c'est terminé, Geneviève Hinze se quitte » et à partir de maintenant, il s'agit d'Isabelle Laure qui prend le relais.
Quand on écoute ça, qu'on regarde ça nous autres là, comme simple électeur ou analyste externe, là, on se dit « OK, ben il doit y avoir quelque chose de grave. Il doit s'être passé quelque chose de grave pour qu'elle commente même pas la chose plus que ça. Puis en plus, qu'elle demande pas la permission à Pablo Rodriguez ou concerte pas Pablo Rodriguez, d'autant plus qu'il est proche de cette femme-là. Fait qu'on se dit ben, peut-être qu'elle a pris son rôle de leader en main puis elle a fait ce qu'il fallait pour pas se faire bloquer par Pablo Rodriguez si c'était grave. » On a-tu raison de penser ça?
Mais elle peut pas ne pas se faire bloquer par Pablo Rodriguez. C'est le chef. Donc, je sais pas qu'est-ce qui a
c'est
passé par la tête.
C'est zéro son pouvoir.
Ben, ce n'est pas sa place de faire ça. Elle aurait pu faire quelque chose du genre, écoute, Pablo, ça marche vraiment pas, moi puis Geneviève. Fait que c'est elle ou c'est moi. T'sais, ça, elle aurait pu lui donner la décision, tu tranches. C'est elle ou c'est moi. Mais elle a tranché elle-même, ce qui est vraiment bizarre. Là. Je ne sais pas ce qu'elle imaginait dans sa tête. Puis ça remet aussi en lumière un peu la décision dès le départ de Pablo Rodriguez de choisir Marois Risky comme chef parlementaire. C'est tentant de la choisir comme chef parlementaire parce qu'elle est bonne, est efficace, est probablement plus populaire que son parti, en fait.
Clairement. Puis, on ne se le cachera pas, elle attaquait bien François Legault, notamment sur le dossier des médecins. Là.
Absolument. Elle est très efficace. C'est dur pour François Legault de rentrer dans Marois Risky puis de gagner des points. Elle oublie ça, là. C'est vraiment difficile. Mais en même temps, Marois Risky, c'est comme une espèce de Ferrari un peu dur à contrôler.
c'est un électron libre?
Ben un peu. Puis depuis ses années en politique, moi, je trouvais qu'elle s'était un peu assagie parce que des fois, elle faisait des sorties un peu à l'emporte-pièce. C'est sûr qu'elle est arrivée dans un contexte où il y avait une course à la direction dans le temps qu'il y avait, ben, en fait, juste avant le couronnement de Dominique Anglade comme chef du parti, il y avait un autre candidat, Marois Risky, à appuyer l'autre candidat. Elle fait toujours les choses un peu différemment, Marois Risky. Et à l'époque, on le disait déjà là, dans les couloirs que c'était pas nécessairement la joueuse d'équipe. Là, que c'était quelqu'un qui partait un peu avec son ballon toute seule. Il y a eu plusieurs anecdotes, mais ça reste à l'interne. Donc, les gens ne savent pas ça. Ce qu'ils voient, c'est la députée efficace. Donc là, ça amène la question. Dans toute cette chicane-là, puis l'exclusion de Marois Risky, est-ce que les gens qui sont pas dans les corridors de l'Assemblée nationale vont trouver que Pablo Rodriguez avait donc raison ou ils vont dire, ben, en fait, ils vont voir la crise? Est-ce que Pablo Rodriguez va comme perdre des plumes aussi? Parce que les gens vont dire, ah, il a exclu une femme qui était efficace. C'est probablement parce qu'elle rayonnait beaucoup trop puis qu'il avait l'air pas bon à côté d'elle, ce qui n'est pas complètement faux, faut se le dire.
Oui, est-ce que Pablo Rodriguez a un squelette dans son placard?
Ben, je dis non. Ben, je le sais pas. Je suis pas allée dans le placard de Pablo.
Parce que pour qu'elle fasse ça de façon catégorique, puis là qu'elle se lance en face à face avec.
C'est ça.
En sachant très bien qu'elle, dans 4 ans, revient. Mettons qu'on est dans le scénario qu'elle va revenir. Il me semble que je me dis, elle attaque quelqu'un, qu'à un moment donné, il y a de quoi qui va sortir sur lui, puis elle va dire, haha, voilà pourquoi je l'ai faite.
Ben, en fait, Pablo, je ne sais pas personnellement pour lui, mais c'est sûr que, bon, là, on a appris aujourd'hui qu'il y avait des informations qui avaient été transmises au directeur général des élections sur Geneviève Hinze. Donc, il y aurait comme une plainte contre elle. Là, je veux vous dire que quand tu fais plusieurs campagnes électorales dans ta vie, une plainte au DGE, ça peut arriver. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une affaire grave, mais ça peut aussi être une affaire grave.
Bon, fait que là, je ne suis pas obligé de dire coupable tout de suite.
Non. Okay. On va lui laisser le bénéfice du doute. Donc, étant donné qu'il s'agit de Geneviève Hinze, ben, on pense qu'il y a deux campagnes qui ont eu lieu depuis qu'elle est là. C'est la course à la chefferie puis l'élection partielle dans Tabasco dans laquelle elle était très peu impliquée. Elle était en train d'organiser le cabinet à Québec. Donc, ça risque d'être une plainte dans le cadre de la course à la chefferie. Auquel cas, ça vient de libéraux. Donc, c'est comme une inside job un peu. C'est,
ouais.
Ça peut être des anciens adversaires qui sont frustrés, qui sont restés amers. Ça, c'est, évidemment, normalement, ça vient d'une autre équipe que la tienne. Il faut dire qu'il y avait quatre autres candidats, Charles Milliard, deux autres candidats un peu moins connus, M. Roy et M. Bélanger. Et il y avait aussi Carl Blackburn dont l'équipe est sortie un peu amère. Mais je ne veux pas les accuser, là, mais c'est vrai qu'il y avait de l'animosité là, entre les équipes là, après. Sauf que Charles Milliard... il s'est un peu réconcilié parce qu'il a dit qu'il allait se présenter à la prochaine campagne électorale. On l'a vu aller militer dans Arthabasca pendant l'élection partielle. Donc, bref, à suivre. Mais peut-être, oui, que c'était une des motivations de Mme Risky, mais pour l'instant, elle refuse de commenter. Elle a fait aucun commentaire.
Exactement. On va l'entendre d'ailleurs là-dessus.
Absolument, vous nous parlez davantage. Vous êtes toujours au fond, mais ça doit être une situation embêtante pour qui, pour lui et pour vous. Comment allez-vous?
Moi, je vais bien. J'aurais toujours encore la même réponse, puis je sais que ça peut être frustrant quand c'est la même réponse, mais j'ai pas de commentaire pour l'instant.
Est-ce que le Parti libéral du Québec a toujours un chef en ce moment?
Donc, pas de commentaire pour le moment pour ce qui est de Marois Risky.
Et ce qu'on comprend, c'est que Mme Risky s'est présentée avec un avocat et que Mme Hinze s'est aussi dotée d'un avocat. Alors, c'est pas terminé tout ça. Donc,
c'est ça
garde mal.
C'est particulier, puis tu sais... Y a-t-il été impulsif, Pablo Rodriguez, dans sa décision actuellement ou il aurait dû prendre un pas de recul?
Non, il n'a pas été impulsif. Quand il arrive quelque chose comme ça, c'est un bris de confiance et il aurait eu l'air d'un paillasson devant son caucus, de laisser passer un tel affront. Ce genre de communication-là qu'on envoie à tout le monde, premièrement, il y a des cercles dans une équipe politique. Il aurait fallu... Tu sais, les officiers, d'habitude, tu les consultes. Tu fais pas juste les informer de quelque chose, tu les consultes idéalement. Là, ils l'ont appris par un courriel en même temps que les adjointes puis les recherchistes. Là. Ça a comme pas vraiment de bon sens. Et cette nouvelle-là aurait dû arriver de Pablo Rodriguez. Pas comme dans un monde parallèle où il n'est pas. Là. Ça, c'est vraiment passé par-dessus la tête du chef et il ne pouvait pas, il y a un bris de confiance, il ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait qu'il pose un geste. Si jamais il l'avait laissé en place, sa crédibilité auprès de son caucus aurait été entachée. Maintenant, il y a d'autres rumeurs. J'ai vu Jonathan Trudeau, le chroniqueur politique, qui, tantôt sur X, disait qu'il pourrait y avoir d'autres démissions. Moi, j'ai entendu parler de personnel politique qui songeait à quitter, mais...
Son mari va quitter? Là.
Ben c'est ça. Parce que le chum de Marois Risky est également député, Greg Kelly. Disons qu'il est à risque de suivre sa conjointe, évidemment. Sinon, bonjour l'ambiance. Ça va être soit bonjour l'ambiance au caucus ou bonjour l'ambiance à la maison.
C'est ça.
Toutes ces réponses-là. Donc, pour M. Kelly, ça le met dans une drôle de situation pour l'instant. Puis on rappelle que Marois Risky avait l'intention de quitter à la fin de son mandat.
Ouais.
Donc, c'est un peu dommage aussi.
Ça soit un départ comme ça.
Parce que j'entends des gens qui disent c'est un putsch, ils ont fait un takeover de... Oui, mais elle s'en va. Donc, moi, je pense pas que c'était une tentative de prendre plus de pouvoir. J'ai l'impression que c'est tout simplement une mauvaise lecture de c'est quoi ton rôle et des réflexes individualistes, finalement, de la part de l'ancienne chef parlementaire du PLQ.
Bref, c'est le monde à l'envers, Antonine, parce que pendant que le PQ a fait un congrès, on s'est tapé dans la main, on a dansé sur le rigodon, puis on criait « on veut un pays, on veut un pays ». C'est les libéraux qui se déchirent.
Oui, puis normalement, les libéraux sont très disciplinés. Là, depuis ce matin, d'ailleurs, pour patiner un peu, quand la nouvelle est sortie, ça répondait pas beaucoup au téléphone. C'était silence radio. Quand ce genre de crise arrive au PQ, là, il y a toutes sortes de monde qui sont prêts à commenter. Là, même
les gérants d'estrade sortent, les belles-mères, les beaux-pères.
Les libéraux sont plus sages, d'habitude. Par contre, pour Pablo Rodriguez, ce n'est pas une
Là, la porte est encore fermée.
OK, je faisais des signes. Il pointait la télé, je pensais qu'on avait un
porte est toujours fermée du côté de Pablo.
C'est ça. Dans le fond, la salle où avait lieu la rencontre entre Pablo Rodriguez et Marois Risky, Marois Risky en est sorti et a offert zéro commentaire en disant beaucoup de
très
mots.
Très rapidement, ça a pris 10 minutes.
Ça a pris
10
minutes et c'était terminé. Et là, Pablo Rodriguez n'est toujours pas ressorti du bureau de Montréal. Mais moi, mon hypothèse, c'est qu'il s'est sauvé par la fenêtre.
Ah oui, tu vois. avec des draps attachés.
Exact.
Comme dans les bons vieux films
d'évasion
de prison. On passe au fédéral parce que hier, c'était le vote sur le budget. Et Antonine, cette dame a décidé de voter oui pour le budget.
I heard a firm commitment we will meet our Paris targets. That requires action very soon because the first target we're going to hit is 2030 and then 2035. Legally binding treaty commitments and a commitment to do far more than we've heard in the budget with funding for the Kunming Montreal commitments to nature, to stop beating up on Mother Earth and start the process of CPR. So, against what I had expected to say to you today, I'm going to vote yes for the country, for the planet.
Elle a voté oui pour le pays et pour la planète. Elisabeth May.
Une
la
chance que
chef
le...
du Parti vert, même s'il n'y a rien d'environnement dans le budget et dans les politiques de Mark Carney, elle s'est rangée derrière les libéraux.
Une chance que le ridicule ne tue pas, car ce n'est pas à Planète Terre, il faudrait faire le CPR, ce serait à Elisabeth May. Honnêtement, quand le gouvernement a rendu public son budget la semaine passée,
ouais.
elle a jeté le document sur le sol et elle l'a piétiné. Premièrement, les mises en scène, même en politique, ça me gosse.com.
Ouais, mais c'est comme Jack Meeting qui avait déchiré l'entente.
On n'a pas besoin de pièces de théâtre.
Il avait déchiré l'entente, mais c'est... après ça, il a dit « Oh, elle est où la colle? Parce que finalement, on va revoter oui! »
Exact, il était chassé le scotch tape. Tu sais, à l'impro, il y a des punitions pour cabotinage. Là. Moi, c'est ça. J'en distribue allègrement ces temps-ci. Donc, Elisabeth May qui piétine le budget. Et
ouais,
qui vote pour
qui
après,
vote pour.
Pour sa petite fille.
Oui.
Hein, pour la prochaine
exactement,
génération.
Exactement, parce que Mark lui a dit, inquiète-toi pas, on va les atteindre, les cibles de Paris. On n'a rien mis dans nos politiques pour ça, mais on va les atteindre.
On a enlevé la taxe carbone, on a baissé les plafonds, on a augmenté les plafonds. C'est pas grave, Elisabeth May, tout va très bien de son côté. L'autre qui a l'air un peu fou dans tout ça, c'est quand même Pierre Poilievre.
Ben oui.
Heureusement pour lui, Elisabeth May a tellement l'air folle que finalement...
Il est passé un peu sous le radar.
C'est un peu plus sous le radar, mais c'est vrai que il y a toujours des lignes assassines, c'est un chef de l'opposition qui est très agressif et là, on fait toute une sorte de tactique là, pour voter pour, mais voter contre, puis trouver des abstentions. On dit que, en fait, c'est le Bloc québécois qui a décidé de gagner la game de chicken hier parce que tous leurs députés ont voté contre. Puis ils ont dit, nous autres, on va voter contre. Fait qu'arrangez-vous les autres si vous voulez pas aller en élection. Nous, c'est pas la fin du monde. Et c'est vrai que pour Pierre Poilievre, c'est inintéressant de partir en élection maintenant avant son vote de confiance du début de l'année parce qu'il y a des doutes qui planent. Et moi, je pense, à moins qu'il y ait d'autres rebondissements, que son vote de confiance va bien se passer, ce qui lui donnerait une légitimité plus grande pour continuer, qui dissiperait finalement les doutes sur son leadership. Mais là, il n'a vraiment pas envie de partir en élection tout de suite.
Deux abstentions NPD, deux abstentions conservateurs. Matt Gineroux, pas une surprise, il a annoncé qu'il allait quitter. J'oublie le nom là, de la conservatrice qui a décidé. Stubb, exactement. Bon, Pierre Paulus, en entrevue ce matin, sur les ondes de Marceau le matin, sur les ondes de Boulevard 102.1, nous a dit « Ah, elle avait des ennuis de santé, elle n'a pas été capable de voter à distance. » Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
Écoute, eux, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils ont regardé mathématiquement combien il fallait qu'ils mettent de monde stand-by. On va surveiller le NPD, qu'est-ce qu'il fait. Ils ont vu que le Bloc allait tout voter pour. Ils ont vu Elisabeth May, ils ont vu... Bon. Et là, ils se sont dit, OK, Gineroux, il n'est pas là, il ne vote pas. Écoute, cher député qui a des problèmes de santé, dérange-toi pas.
C'est ça.
Okay? Parce que c'est un vote électronique. Elle aurait pu le faire, mais on avait gardé quelques députés comme un peu en réserve.
Mm-hmm.
Et si jamais on voyait qu'on ne gagnait pas mathématiquement notre pari, Andrew Scheer était prêt à avoir raté là, son vote et s'être enfargé dans le corridor en chemin.
OK, parfait. Parce que c'est pas grave, Andrew Scheer. Andrew Scheer a déjà été chef. Ça n'a pas marché. Fait que tu peux t'enfarger, toi, moi, Andrew.
Il s'enfargeait. Leader parlementaire. Donc, on n'était pas à l'abri quand même d'une erreur de whip ou de mathématiques. Là. Vous voyez un peu le jeu niaiseux là, pour réussir à finalement faire passer le budget sans qu'on dise qu'on appuie le budget. Honnêtement, je me dis à un moment donné, peut-être qu'il va falloir réfléchir à une manière de fonctionner qui est un peu différente quand on a des gouvernements minoritaires, parce que c'est du maudit niaisage, premièrement.
Ben oui.
Puis ça collabore pas très bien. T'sais, on a un gouvernement qui est minoritaire, mais qui gouverne comme s'il était majoritaire.
Clairement.
En se disant... Tu joues à check-in, on va jouer à check-in. Tu y aller en élection, moi, y aller, moi, ouais, en élection. Ça. Mais ça fait longtemps qu'on a une Chambre des communes qui n'est pas très productive. Il faudrait qu'on aille, disons, cette année, là, mettons qu'on se dit qu'on a des élections l'année prochaine, réalistement, avec ce gouvernement minoritaire-là. Ce serait le fun qu'il y ait 2-3 affaires qui aboutissent, s'il vous plaît. Ouais. Parce que l'an passé, il ne s'est rien sorti de là, là, de la Chambre des communes.
Non,
c'était bloqué.
Puis là, même là, McCarney, il y a le projet de loi pour faire accélérer les grands projets. Il a mis 12 grands projets sur la table, mais il n'y en a pas un présentement qui est dans le projet de loi.
Non, écoute.
Fait que, tu sais, c'est un peu n'importe quoi là, à l'heure actuelle. J'ai trouvé ça intéressant que tu dises le Bloc a décidé de ne pas jouer à Chicken et d'y aller. Puis là, je vais parler en langage de poker all-in. Parce que Mark Carney a justement lancé des flèches au Bloc québécois ce matin lors d'un petit scrum avec les journalistes à son entrée à la Chambre des communes.
Il y a une responsabilité pour tous les députés, y compris le Bloc. Alors, dans le budget, c'est le plus grand investissement dans la culture francophone, québécoise et canadienne. Et le Bloc, il compte ça. Il y a plus grand investissement dans l'électricité propre au Québec dans l'histoire du Canada. Et le Bloc, il compte ça. Les transferts à l'échelle fédérale au Québec de 29 milliards de dollars dans le budget. Et le Bloc, il compte ça. C'est une responsabilité. On a une responsabilité dans la Chambre de communes de voter pour l'avenir du Québec, l'avenir du Canada.
Pour l'avenir du Québec, pour l'avenir du Canada. On est déjà en campagne électorale du côté de Mark Carney au Québec parce que le Angus Reid que tu m'as montré ce matin, Carney frappe encore fort au Québec,
oui.
Frappe encore fort en Ontario.
Oui.
Les conservateurs ont perdu des points à ces deux endroits-là. Donc lui, Mark Carney, il dit « Si je veux ma majorité dans à peu près 6 mois, 1 an, c'est au Québec et en Ontario que ça passe, je refrappe là. »
Oui, puis l'Ontario, c'est la plus grosse source de circonscription, surtout la région
Exactement.
De Toronto. Tu fais le plein là, tu gagnes les élections. Et on le sait, là, le Québec a contribué énormément à faire
élire Mark Carney.
Avec pas énormément de députés du Bloc. Hein. Il y a beaucoup de comtés bloquistes qui sont passés vers le Parti libéral. Et quand même, là, après 4 mandats de Justin Trudeau, que finalement, tout le monde était vraiment tanné de lui. Là. C'est quand même un exploit. Maintenant, tu sais, le Angus Reid d'aujourd'hui, ce qu'il faut surtout comprendre, en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que Pierre Poilievre vraiment est polarisant. Parce que c'était beaucoup un sondage qui tournait autour des taux d'approbation de popularité des chefs, donc de Mark Carney et de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, il y a 60% de monde qui ne l'aime pas, là. Tu sais, je veux dire,
c'est beaucoup.
C'est difficile quand tu es positionné comme ça.
Il est un peu comme Éric Duhaime. Éric Duhaime, c'est quoi? 50 à 56% des gens qui ne l'aiment pas au Québec.
Pis,
c'est dur, après ça, de devenir premier ministre.
Ben c'est ça, mais sa base l'aime beaucoup. Et l'électorat ne l'aime pas beaucoup. Donc, ça fait une stratégie qui est difficile à déployer parce que, par exemple, pour plaire à ta base, mais en même temps, pour plaire à l'espèce d'électeur moyen qui fait la différence dans la balance. Puis j'ai envie de dire aussi à l'intelligentsia montréalaise et d'Ottawa et de Toronto, là, l'élite médiatique, mettons, qui va dire si ce que tu fais, c'est bon ou pas bon, ben tu plairas jamais comme aux deux en même temps.
T'as raison.
Soit que tu fais plaisir à ta base ou soit que tu te fais applaudir par, Puis là, je parle peu comme une conservatrice là, avec mon élite médiatique, mais vous comprenez ce que je fais. Ouais.
Je comprends très bien. Hey, je termine, on parlera de la mise à jour économique plus tard en semaine parce que ça va avoir lieu la semaine prochaine. Puis on parlera de cette fameuse taxe à l'essence.
Ouais.
L'impression qu'on va avoir un petit cadeau au moins de la CAQ.
Les paris sont ouverts. On en reparle demain.
Je veux juste amener là-dessus parce que ça vient de sortir dans la presse. Livre bleu sur l'indépendance du Québec. Le PQ veut donner le Québec à Donald Trump, lance Mélanie Joly.
Eh oui.
Là, les libéraux, ils attaquent le Bloc, ils attaquent le PQ, ils sont partis eux autres. On veut
en
notre
référendum.
Majorité. Go, 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 Canada, Canada,
on
Canada.
On est en campagne référendaire, là, les amis, là, à Ottawa. Ils sont sur le bord de partir en autobus, écrit non dessus. Là.
C'est ça,
à
on est là. Mais là, les Jeux olympiques arrivent au mois de février. Non. Fais-moi pas cette face-là, Antonine Iacarini. Quand il y a des Jeux olympiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une montée du patriotisme canadien.
Moi, je compte sur certains athlètes pour se dessiner des fleurs de lys ses joues.
Imagine quand on va gagner...
Oh, la campagne référendaire aux Olympiques. Ah ouais.
Imagine quand on va gagner la médaille d'or au hockey masculin. Mm. Comment qu'on sera plus souverainiste?
C'est possible. T'as raison. Hein. Ça se peut très bien.
Hey, c'est l'émotion.
Regarde, le PQ a perdu combien de points cet automne? 6 points?
Ouais. C'est parce qu'il parle d'indépendance.
Non, c'est pas nécessairement pour ça.
Non?
Peut-être.
Je faisais un lien trop rapide.
Ben, je pense que les libéraux étaient moins mauvais que mettons, dans les dernières années. Oui, le référendum dans le premier mandat, il y a des gens qui rentrent à la maison, qui étaient venus voir ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait à leur offrir parce qu'ils l'aimaient bien, mais que c'était pas des voteurs naturels du PQ. Donc, on retournait un peu plus vers le parti libéral. Puis, je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui ont découvert que M. Saint-Pierre Plamondon était un peu grognon des fois, puis peut-être que ça peut déplaire.
Et là, amis souverainistes, attention, on est en train de donner, Pascal. On donne notre pays à qui? Au diable en personne, Donald Trump.
Aucune exagération.
Un mannequin.
Franchement.
On va devenir le 51e État si on se sépare.
À soir, on fait peur au monde, là, puis pas rien qu'un peu. Là. Franchement.
J'espère que tu comprends mon sarcasme.
Bien sûr! Je ris de Mélanie Joly, pas de toi.
418-971-1021. Avez-vous peur d'être annexé aux États-Unis si on se sépare?
Je veux juste dire quelque chose en terminant. Après ça, je m'en vais, parce que je m'en vais à Rimouski. Mais je veux juste vous dire que si les États-Unis voulaient annexer le Canada au complet, ils sont capables. Hein? Ça n'a pas rapport avec... On n'a pas plus de chance.
Fait qu'imagine si on est juste le petit Québec.
On parle français. J'ai déjà entendu Donald Trump dire que ce serait compliqué, il parle français.
Fais-tu, les textes à Mélanie Joly, toi, ce temps-ci?
C'est ça. OK, il faut que j'arrête mon sarcasme.
C'est vrai, c'est louche. Je vous ai jamais vu dans la même pièce en même temps.
D'abord, c'est
personne.
Calculé.
Mélanie Joly. En attendant, parlant de pièces, la porte est toujours fermée pour Pablo Rodriguez. On est là-dessus jusqu'à 14h à l'émission On en jase. Dès que la porte ouvre, on s'en va entendre les commentaires de Pablo Rodriguez qui a été mis dans le trouble par la chef qui avait nommé Marois Risky. On le rappelle, elle a été exclue du caucus du Parti libéral du Québec pour avoir congédié sa chef de cabinet, Geneviève Hines, qui était, au passage, la chef de cabinet de Pablo Rodriguez.
Vous avez des informations concernant une possible intervention en Haute-Ville, intervention policière 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, comme d'habitude. Moi, j'arrive pas à avoir de l'information là-dessus. Si jamais vous êtes dans le coin, en Haute-Ville, peut-être une opération policière.
Ouais. Hey, Anthony, avant que tu partes, il faut que je te lise une coupe de texto. Là, check-moi ça. Là. La vraie question, faites quoi des Canadiens de Montréal si le Québec se sépare? On les appelle les Québec de Montréal!
Oui, mais là, ça, c'est une autre affaire, Jeff. C'est que Canadiens, c'était notre nom aux Canadiens français.
Ouais.
Ils ont volé notre nom, ils ont volé le nom du pays, ils ont volé notre hymne national, puis là, ça y est, il faudrait tout leur donner.
Ben là, qu'ils se trouvent un autre nom.
Ils volent la poutine, à part de ça.
Qu'ils se trouvent un autre nom, puis ils toucheront pas à ma poutine.
Hey, c'est ça.
Saviez-vous qu'on peut être annexé aux États-Unis? En Louisiane, il y a des Français. Imagine, on aurait une communauté frère.
Bien sûr.
Si on était annexé aux États-Unis.
Oui. Il y a moins de monde, de moins en moins de monde qui parle français à Louisiane.
OK. Pascal Antonin, donnez-moi donc ma pénalité à l'impro pour cabotinage.
Cabotinage.
Que je pèse sur le piton. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, avec nous parlant d'intervention policière après la pause. On va revenir sur cet homme qui est rentré pas à peu près dans le poste de police hier, Pascal. Hein? Proche de la salle de repos, il y a des accusations, si je ne me trompe pas, de tentative de meurtre contre cet homme. On va parler de tout ça avec Roger Ferland. Je sais pas pour toi, Pascal, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Est-ce qu'on protège bien nos policiers à Québec? »
Ou on pense qu'ils sont protégés parce qu'ils sont la protection.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être très intéressant de parler avec Roger Ferland immédiatement après cette courte pause. Puis je vous promets un peu moins de cabotinage à Boulevard 102-1. Présentement, midi 40, vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase. 418-971-101 pour interagir avec nous. BLVD.fm pour nous écouter via la web radio. Les meilleurs moments de l'émission vont se retrouver sur BLVD.fm immédiatement après l'émission. App Store, Google Play Store, c'est BLVD 102.1. Twitch.tv/BLVD/FM pour voir nos belles petites faces sur la plateforme Twitch. Pascal, il y a circulation, il y a également, on se demandait ce qui se passait avec les policiers. Puis après ça, on parle avec Roger Ferland.
Oui, j'ai appelé en fait le service de police de la Ville de Québec pour savoir, ben pas au 911, je veux rassurer tout le monde, on a une ligne média, pour savoir ce qui se passait. Il y a des gens qui nous disaient « Hey, je viens de voir 15 voitures de police sur Duplessis-Sud, il y a environ quelques minutes, soit 20 minutes, qu'est-ce qui se passe, on est rendu où? » C'est une pratique, mesdames et messieurs, l'instance moto, en fait, qui se pratique à bord de véhicules en ce moment, vous comprendrez qu'ils ne sont pas à moto. Sur les réseaux routiers, alors on ne s'inquiète pas.
Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, rappelle-nous la nouvelle hier, parce que tout le monde a été pris par surprise. Aux alentours de 15 heures, il y a un individu avec sa voiture qui a carrément entré dans la centrale de police. Et là, quand on dit rentrer, il a défoncé des fenêtres puis il s'est retrouvé dans l'aire de repos. Heureusement, il n'y avait pas de policier.
Pierre-Olivier Jobin, 32 ans, il a foncé avec son véhicule dans cette centrale-là de police, en fait. Et il a été formellement accusé de tentative de meurtre envers les policiers. C'est pas rien, là. On prend pas ça à la légère. Il est toujours détenu au moment où l'on se parle. Il a comparu ce matin par visioconférence depuis les cellules de la centrale de police. Il fait face à un total de 7 accusations criminelles, dont voie de fait grave, conduite dangereuse et méfait dépassant 5 000 $. Tentative de meurtre aussi là-dedans.
Donc, ça va être dossier à suivre en justice. Et justement, pour en parler, on va aller discuter avec l'ex-enquêteur au niveau du SPVQ et également enseignant en technique policière au Cégep Garneau, Roger Ferland. Roger, comment vas-tu?
Très bien, en pleine forme. Vous autres aussi, oui?
Oui, ça va super bien. Roger, est-ce que tu as été comme moi et Pascal, c'est-à-dire que tu as été surpris de voir qu'un simple citoyen pouvait attaquer de cette façon la centrale de police à Québec?
Sincèrement, oui. D'avoir eu déjà dans le passé à m'être posé des questions sur cela, sur le système de protection de la forteresse, en fait, ton poste de police, j'étais un petit peu surpris. Puis de voir aussi avec quelle force et quelle violence il y a eu le temps de se donner un élan, de prendre la rapidité. On le fait même dans les rues, protéger les gens dans les manifestations, permettre qu'ils passent en chicane, qu'ils puissent pas prendre de vitesse. Là, lui, il a réussi à prendre la vitesse. Puis une clôture, ben c'est une clôture. S'il y a juste ça, oublie ça. Là, il faut que tu rajoutes des éléments, des filets de sécurité plus grands que ça un petit peu. Là, mais en tout cas, je pense que là, on vient de frapper un mur.
C'est le cas de le dire. Ça se discutait donc à l'époque, Roger, quand tu étais au sein des forces policières, d'augmenter cette sécurité-là auprès des policiers, comme quoi on s'attend à ce que ce soit un des endroits les plus sécuritaires.
Bien, ça avait été, je te recule un peu dans mon ancienne vie, j'étais policier à Sainte-Foy à l'époque. Puis quand ils ont construit la centrale au 1130 route de l'Église, j'avais été dégagé à la demande du syndicat pour m'occuper de CNESST. Puis j'avais collaboré avec Mme Boucher pour quels étaient les points stratégiques. Et on ne voulait pas se faire prendre le poste de police parce qu'il y avait une centrale 911 à l'époque dedans aussi. Puis dans la même séquence, un bélier mécanique, un pelloader, s'était présenté d'un poste de police, avait défoncé la porte ailleurs, pas chez nous à Québec, mais dans un autre district. Alors là, on était conscient de tout ça, la réalité et ce que ça représentait, mais on avait eu à se pencher sur cette question-là. Et dans les circonstances, il y a des murs qui ont été renforcés à la centrale de Québec, sur 1130 de l'Église, que moi je sais. Il y avait des vitres par balles à des endroits parce qu'on ne voulait pas prendre d'assaut certains secteurs. Mais là, j'ignore ce qu'ils en ont fait dans ce secteur-là. J'ignore ce qu'ils ont fait aussi, ce qu'il y en était. Pour en arriver là.
Chose certaine, Roger, il y a eu une mauvaise configuration pour qu'on puisse être capable de se donner un élan de la sorte avec notre voiture.
Tout à fait, tout à fait. Il y a sûrement eu une certaine, j'ai envie de dire, planification de la personne. La personne arrêtée, interrogée, a sûrement dû verbaliser un petit peu ce qui se passait, en a dit un petit peu. Alors, ça fait partie, en fait, là, des choses qui fait que là, maintenant, ils ont décidé de l'accuser même de tentative de meurtre. Ça veut dire que s'il avait eu la chance, à ce que je comprends, d'avoir un policier sur son chemin, ben, ou quelqu'un d'autre, il l'aurait écrasé.
C'est fascinant parce que c'est un homme, Pierre-Olivier Jobin, qui réside à Québec, qui n'a pas d'antécédents criminels. La couronne, par exemple, s'est opposée à sa remise en liberté. Il y a le dossier qui doit revenir devant le tribunal lundi prochain, alors dans environ une semaine. Inconnu et tout ça, y a-t-il quelque chose qu'on peut voir venir? Je parle pas de la dite voiture, mais y a-t-il un courant actuellement à Québec? On entend-tu des choses? Y a-t-il des gens qui en veulent aux policiers à ce point-là? Ou ce serait un loup solitaire? On se pose plein de questions dans ce temps-là.
Bien, c'est les questions qui ont dû se poser hier. C'est pour ça même qu'ils n'ont rien négligé. Ils ont fait rentrer les artificiers pour s'assurer que le véhicule n'était pas... un véhicule, en fait, outil qui allait servir à peut-être faire une explosion ou autre chose, ça fait partie des scénarios à laquelle tu penses. J'ai envie de te dire, plus qu'à l'habituel, je ne penserais pas, Pascal, si la sécurité est plus grande. Mais tu te dois, quand les policiers rentrent dans la maison principale où ils travaillent, que ça soit un lieu très sécuritaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a sûrement une grosse remise en question à ma tête de savoir qu'est-ce qu'on fait là-dedans. On en fait-tu assez? Les lieux sont-ils bien sécurisés? Mais je ne pense pas, non, qu'il y avait outre-mesure, mais on s'entend, là. On ne gère pas une garderie, c'est un poste de police. Puis dans le poste de police, ben, tu fais rentrer des brigands, là, très souvent. Et si les gens veulent s'en prendre à quelqu'un, ben, c'est là que tu peux le faire. Souvenez-vous, à Montréal, quand il y avait les postes de quartier, la policière qui est morte, qui s'est fait tirer là-bas, c'était carrément, il dit, où on peut en trouver un facilement? Un poste de quartier à l'accueil est facile et d'accès. Et on sait aujourd'hui, une partie de l'enquête, ça a été une commande d'une équipe du crime organisé avec une autre. Puis ils sont allés abattre une policière gratuitement, là, Odette Pinard, qui s'était fait tuer. C'était carrément ça. C'est ça que l'enquête a divulgué à l'après. Là, fait que c'est triste comme situation, mais il faut que, quand tu places tes gens-là à l'accueil du poste de police, qu'ils soient également aussi en sécurité.
Pour rappel, on parle avec Roger Ferlinx, enquêteur au SPVQ et enseignant technique policière au cégep Garneau. On revient sur l'événement d'hier, là, l'attaque avec une voiture sur la centrale de police de Québec. Roger, est-ce que pour que la personne soit capable de viser carrément l'air de repos, est-ce que cette personne-là peut faire de l'observation avant, proximité de la centrale de police?
C'est possible. C'est une partie d'information que je n'ai pas. Il a utilisé, en fait, un accès arrière de la centrale, à ce que j'ai compris, pour passer. Parce que s'il arrivait par l'avant, ça aurait été plus difficile. Mais de la place où il est passé, là, à ce moment-là, il fallait qu'il connaisse un peu les lieux, en tout cas d'après moi, parce que moi-même, je suis sûr que je peux encore aller visiter la centrale, mais je n'aurais pas su faire la manœuvre qu'il a faite là, tu sais. Moi, mais je ne suis pas le policier actif en ce moment, là, tu comprends bien. Alors, il savait comment rentrer là, où il était peut-être déjà allé, je ne le sais pas, où il avait fait des observations, mais il a réussi à encastrer son véhicule, à ce que j'ai vu les images, en totalité à l'intérieur. Là. Les images du soleil sont très claires. Là. Il avait le temps de se prendre un bon élan.
Ça se posait des questions aussi par rapport aux endroits où on met les postes de police, la manière dont on les érige et tout ça. T'sais, il y a quelques années, je me rappelle, la centrale de police avait fait un rififi monumental au municipal. On n'avait même pas prévu de stationnement. Ouais. On se dit, Caroline, je veux dire, s'il y a un endroit ou une job où ça nécessite de se stationner sans être impercommable puis sans se casser la tête, c'est bien un poste de police. Qui chapeaute tout ça, en fait? C'est-tu revu? C'est-tu à saveur provinciale, fédérale ou que municipale? C'est particulier, là.
C'est particulier. Puis chacun des postes de police, chacune des organisations a à donner ses devis de ses besoins qu'il y a à ce moment-là. Sincèrement, à l'époque, je vous dirais, je suis au courant de certaines stratégies pour le 11-30 parce que j'y ai participé. C'était très clair. Ça prenait plus d'un accès. De quelle façon on était. Tu ne pouvais pas rentrer sans nécessairement avoir être capable de prendre de vitesse à nulle part. Il y a des murs de protection qui ont été mis à des endroits. Il y avait des choses de planifier. Ça demande une stratégie, ça demande une réflexion. Ça demande des gens qui... Tu ne construis pas ce bâtiment-là comme tu construirais n'importe quel bâtiment.
C'est ça.
Alors, y a-tu des normes, des devis? Regarde, les bâtisses de la Sûreté du Québec sont installées dans toutes des bâtisses qui appartiennent au gouvernement dans un autre ministère. Alors, ils ont des choses qui se font demander aussi d'avoir à le faire. Mais ça dépend toujours des besoins. Mais très souvent, il y a tout l'équilibre qu'on entend des personnes en autorité au niveau des villes de dire « on veut une police de proximité ». Je veux bien, moi, qu'il y ait une police de proximité. Je suis même proactif là-dessus, 100%. Mais si je débarque dans un parc, je veux savoir que je débarque dans un parc, puis je m'en vais là en vélo, je m'en vais là à pied, j'ai déjà pensé à ma propre sécurité avant d'y aller.
Oui.
Mais quand je rentre dans ma caverne, excusez deux secondes, il faut qu'il y ait des gens qui aient planifié un peu qui a accès, par où on va passer. Oui, il y a des accès contrôlés, là, je comprends tout ça. Mais je pense qu'il y a peut-être lieu d'installer des petits mécanismes de chicane, comme on fait dans les parcs, pour pas que les gens en vélo puissent prendre des vitesses à des endroits sur le bord des rues, mais pas plus qu'une auto puisse s'insérer à des endroits où les piétons ou les agents vont avoir accès. Alors, je suis convaincu qu'il va y avoir de solides discussions en ce moment. Je ne sais pas s'ils vont venir du syndicat, des patrons ou qui, mais avec la ville et les bâtiments pour dire « Hey, c'est beau de couper, là, mais il y a des limites à couper. Là, on ne coupera pas sa sécurité des policiers. »
Est-ce que ça te surprend justement, Roger, qu'on n'ait pas eu encore de conférence de presse, que ce soit de l'administration Marchand, que ce soit du directeur de la police ou même de la fraternité des policiers là, décriant la situation?
Bien, ce genre de situation, je te dirais, Jeff, pas nécessaire de le faire sur la place publique, là,
ouais.
Même si c'est en négociation, là. Mais je suis sûr qu'il y a eu des appels et des échanges. Ça, je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas eu. Là, puis, c'est le genre de démarche aussi que tu vas faire de façon à tête froide, avec des bons écrits.
Ouais.
C'est-à-dire, voici la situation. On vous avait avisé, on vous avait dit. J'essaie d'imaginer ça un peu comme ça. Mais On a-tu besoin d'aller chercher l'opinion publique en ce moment? Je ne pense pas. Là. Le public en est concerné en disant si on est capable de s'attaquer de même à cette bâtisse-là. On le planifie en avant des garderies en ce moment pour empêcher qu'on mette des bonhommes de métal empêcher qu'ils puissent se rendre. T'sais, on place des blocs de béton. T'sais. Mais je le sais qu'on a un courant populaire en ce moment de dire que notre police de proximité, on la veut fine et gentille. Oui, quand c'est le temps. Le restant du temps, je pense que le début de la crainte et du respect, c'est parce que les gens aussi ont peur de se faire arrêter. Puis je pense que ça, il faut que les policiers soient capables de le démontrer. On est chanceux à Québec, on a encore plein de guerriers, mais arrêtons de
protégeons-les. Ben oui, protégeons-les. Après, avec la hausse qu'on voit au niveau du crime organisé, de la violence, je veux dire, ce qui se passe dans les prisons aussi, on est un petit peu moins coercitif à travers les dernières années. Là, on parle pas d'enfants qui se font élever. Là, on parle de criminels qui ont été accusés, reconnus coupables aussi parfois. Là, on parle des prisons, là, assurément dans les prisons. Le bras de fer qu'on s'est fait diminuer, je pense, en tant que gardien de prison, fait aussi énormément jaser. Je pense qu'au niveau de la police, il y a, oui, matière à comprendre les citoyens. Je veux dire, c'est changeant comme population dans chacune des villes, mais il faut rester la loi et l'ordre.
Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que tu le dis bien. Moi, je pense qu'il y a une limite, tu sais, de ce que jusqu'où on va aller. On dit souvent aux policiers, main de fer dans un gant de velours, mais il faudrait appeler aussi que c'est main de fer qu'on a besoin d'avoir.
Oui. Roger, je te remercie infiniment. On va te laisser parce que, somme toute, Pablo Rodriguez va bientôt sortir de son bureau. C'est la crise au Parti libéral. Hey, on regarde la porte depuis tantôt, nous autres, Roger.
On vous laisse là-dessus. Une autre porte à surveiller. Mais si vous voulez rentrer au poste de police, prenez la porte à l'accueil. C'est plus sécuritaire et moins dangereux.
Exactement. Merci beaucoup, Roger. Salut. Roger Ferland, ex-enquêteur au niveau du SPVQ. On va aller écouter immédiatement.
Oui.
Ça semble être le whip en chef là, du Parti libéral.
Je vais laisser, on ne pourra pas s'exprimer davantage pour l'instant sur la situation. On a émis ce qu'on devait dire dans le cadre du communiqué de presse. C'est très chaud, c'est très nouveau comme situation. Alors, on va pouvoir en dire davantage ultérieurement.
Est-ce que ça ébranle un peu votre chef, M. Rodriguez?
Pardon, on l'a manqué.
Est-ce que ça ébranle votre chef?
On attend l'ascenseur. Je n'ai pas d'autres commentaires à formuler que ce qui a été dit dans notre communiqué de presse. Situation qui n'est pas simple, on va serrer les coudes et on va passer à travers tous ensemble.
Parce qu'elle est forte, Mme Risky, hein, c'est quand même la députée la plus populaire dans votre parti.
Ouais, donc le président du Parti libéral du Québec, Raphaël Ferraro, là, qui dit on va serrer les coudes. Pas plus de détails.
Alors voilà, c'était Raphaël Ferraro, président du Parti libéral du Québec. Il attendait l'ascenseur avec impatience. Il était là. Va-tu arriver cet ascenseur-là que j'arrête de répondre aux questions? Finalement, on semble avoir pris les escaliers.
Oui, on n'a pas attendu. Moi, ça me fait penser à des gens dans l'ascenseur qui ont un malaise à faire du small talk avec d'autres qui ne vont pas sortir sur l'étage sur lequel il y a poinçonné. Ah, oui. Mais là, c'est un peu ce qu'on sentait. Ah, finalement, ma petite ange, il fallait que je m'entraîne aujourd'hui. Fait que je vais prendre l'escalier, puis ça va être plus rapide, puis je vais me sauver des journalistes. Mais...
Donc là, la porte s'est refermée. Pablo Rodriguez est toujours derrière la porte.
Pascal, on n'a pas eu d'info, il n'a rien dit. Là.
Non, exactement. La seule info qu'on a, c'est qu'André Fortin va prendre la place de Marois Risky comme chef parlementaire. Donc, c'est lui qui va questionner en premier le gouvernement de la CAQ et que ce serait Marc Tanguay, ancien chef par intérim, qui devient le whip du parti. C'est bien ça?
Oui, mais en fait, c'est un communiqué formel qu'on a reçu là, très tôt ce matin, je dois dire, parce que c'était dans l'heure de 11, là, où on a pris des décisions très rapides. On parlait avec Antonine Iaccarini dans le caucus Iaccarini. Puis là, elle disait non, c'est pas de façon impulsive. Faut montrer qu'on n'est pas un paillasson devant des directions qui sont prises par des gens qui ne sont pas autorisés. Dans ce cas-ci, on peut être Marois Risky. Mais oui, Pablo Rodriguez, le chef du Parti libéral du Québec, qui a annoncé des ajustements importants, c'est comme ça qu'on le cite, au sein de l'équipe parlementaire. Écoute, le retirer de ses fonctions de chef parlementaire suspendu du caucus libéral pour la députée de Saint-Laurent. Et on écrit « bris de confiance
».
Décision unilatéralement prise sans consulter le chef et sans fournir d'explication. Voilà pourquoi on met fin aux fonctions de la chef de cabinet. Mesure qu'on dit difficile mais nécessaire, qui vise la cohésion, le bon fonctionnement du caucus libéral à l'Assemblée nationale. C'était des portions du communiqué.
Exactement. Et rappelons-le, ça fait suite au congédiement de Geneviève Hines, qui était la chef de cabinet de Marois Risky, mais nommée par Pablo Rodriguez parce qu'elle était avec Pablo Rodriguez au fédéral. Et lorsque Pablo Rodriguez, elle a été élue, ce serait Mme Hines qui aurait été sa chef de cabinet.
Je vous laissais la place, Antonine, tantôt, et toi, là, pour analyser tout, mais il y a quelque chose qui me revient constamment en tête, parce que je me dis, Colin, quel élément il nous manque pour comprendre la situation?
C'est clair qu'il manque un élément.
D'abord, parce que regardez le plan de match. Là, okay? Bon, le plan de match, c'est Marois Risky, qui est, somme toute, très apprécié des électeurs, okay? Qui a aidé le Parti libéral à sortir des côtés sombres qu'on a connus dans les dernières années, puis qui malheureusement, pour certains, peut-être... l'amène à grandir. Hein? Depuis longtemps, il y avait eu énormément de déçus quand elle a annoncé sa fin politique, du moins
en
pour
effet.
L'instant. Alors, elle prend une décision parce qu'on entend qu'il y a une enquête quelconque sur Mme Hines. Okay? Il y aurait peut-être eu un manquement au professionnel. Bon.
Par rapport à la course à la chefferie du Parti libéral. Et rappelons-le, Marois Risky a appuyé Pablo Rodriguez, mais à la toute fin de la course.
Exact. Donc là, elle prend une décision avec ces informations-là que nous avons, qu'il en manque assurément. Mm-hmm. On dit ça doit être grave. Ou encore, elle se dit faut que je prenne la décision seule parce que je ne veux pas me faire bloquer. Là, tu sais, Anthony, tantôt disait c'est pas ses fonctions, puis on le comprend, mais si elle a pris la décision, elle pouvait un peu le faire, sauf que assurément, c'est mal vu. Mm-hmm.
Oui, puis là, c'est peut-être. Puis là, on est dans les très, 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 très grandes suppositions, hypothèses. Mais mettons qu'elle, là, elle se dit ouais, c'est passé de quoi. Elle peut pas aller cogner à la porte de Pablo Rodriguez.
Si elle sait que c'est
passé
son
de quoi entre Geneviève Hines et Pablo.
C'est ma réflexion. C'est ça que je veux amener sur la table en disant bon, est-ce qu'elle a pris les devants parce que c'est vraiment un loup solitaire, qu'elle a une chicane avec Mme Hines, qu'elle la sent pas, qu'elle veut pas travailler avec elle, puis qu'elle se dit ben, si je demande à Pablo, il va vouloir la garder. Fait que ça marche pas comme ça. Ou encore, il y a eu un grand manquement, puis elle se dit faut que j'agisse seule. Parce que je peux pas laisser aller les affaires et je veux pas que ça soit caché ou encore qu'elle reste au sein de la formation politique si Pablo la conserve, si Pablo la bac.
En effet.
Il manque quelque chose d'important. Il manque vraiment quelque chose d'important. Puis c'est là où je voudrais pas que ça tombe en deux chaises puis il va falloir qu'on sache. En même temps, au moment où on kick out Marois Risky, peut-être que les langues vont se délier.
Exactement.
Mais c'est en enquête.
Marois Risky qui a été exclue du caucus libéral, donc qui va siéger à titre d'indépendante. Faudra voir le suivi pour son mari, Grégory Kelly, qui fait partie du caucus libéral. Bon, je le verrais mal encore dans le caucus, puis sur l'oreiller à côté de Marois Risky le soir, je pense que les gens n'auraient pas beaucoup confiance dans le caucus libéral, justement au fait que M. Kelly serait capable d'être aussi perméable que ça.
Mais tu sais, Marois Risky a du bagou, puis elle connaît la politique, je me dis, elle savait que ça allait faire des vagues. Elle savait que ça allait se rendre. Je peux pas croire qu'elle savait pas que ça allait se rendre aux médias.
Le petit sourire qu'elle a fait dans l'ascenseur quand les portes se sont refermées après avoir dit pas de commentaire, elle savait ce qui allait arriver. Genre.
Alors, pour savoir qu'elle allait avoir autant de lumière autour de ce dossier-là, faut que tu sois ferré aussi.
Ouais.
Sinon, c'est une erreur de pioui pour Marois Risky, puis ça va lui coûter cher.
Oui, elle était accompagnée d'un avocat ce matin pour sa rencontre avec Pablo Rodriguez.
Mais oui.
Donc, ça laisse planer plein de choses, mais bref, grosse crise au sein du Parti libéral dans un moment où le PQ descendait dans les sondages puis eux autres montaient un peu. C'est rien de bon pour le Parti libéral, ce qui se passe à l'heure actuelle.
Les gens demandent est-ce que François Legault va commencer les élections? Est-ce qu'on va ouvrir en fait cette facette-là? Il y a des gens qui parlent beaucoup de Legault.
C'est vrai que François Legault pourrait dire sa mise à jour économique la semaine prochaine. C'est le grand chantier d'Hydro-Québec. On part en élection là-dessus.
On se demande.
Mais est-ce que la CAQ va monter dans les sondages? Pour le vrai, c'est une question que je me pose.
Avec ça?
Parce que, tu sais, les partisans du Parti libéral iront pas au PQ. Est-ce que la CAQ va retrouver un peu de flamme? Moi, je pense que le gars est trop brûlé pour ça.
Mais est-ce que Marois Risky faisait le parti en entier? C'est rendu là, peut-être que non. Sachant qu'elle allait partir, les gens qui allaient voter libéral la prenaient peut-être même pas en compte. Fait que ça fera peut-être pas de fracas.
D'un autre côté, était sûrement pris en compte si Pablo Rodriguez l'avait mis là. T'sais, je réfléchis à voir.
Pas au sein du parti. Je parle pour les électeurs, mettons.
Oui, mais pour les électeurs, c'est ça. Moi, je pense que si Pablo Rodriguez l'avait mis chef à l'Assemblée nationale pour qu'elle questionne François Legault jour après jour, je pense parce qu'il se disait c'est avec elle qu'on va aller gagner des pourcentages.
Mais. Elle débarque la politique. Fait que si les libéraux se font élire, il y en a pour 4 ans, par exemple.
En effet.
Donc, un électeur qu'ils auraient dans la mire doivent avoir évalué beaucoup plus que juste sa présence actuelle en se disant, ben, elle s'en va. Fait que si je vote libéral, faut pas que je vote que pour Marois Risky.
En effet, tu as entièrement raison. Mais bref, C'est pas terminé. On va, somme toute, avoir un point de presse des libéraux. Ça semble pas être prévu pour aujourd'hui, si on s'en fie au président là, des libéraux. Là,
les journalistes devant la porte.
Ils sont là à côté de la porte avec un micro.
Ils ont le micro.
Ouais, puis là, la caméra est direct sur la poignée. Ouais. Dès que la poignée tourne, on saute sur Pablo Rodriguez et on va vous présenter le tout. Sinon, on va se rendre en pause. Par la suite, ça va être la chronique de Rémi Villemeur. Deux sujets super intéressants. Le télétravail. Pour ou contre? Le PQ dit « Hey, c'est 3 jours au travail, ça n'a pas d'allure, la CAQ devrait laisser le télétravail. » Moi, je me suis déjà positionné, j'ai dit « Tout le monde devrait être au travail 5 jours par semaine. Esprit d'équipe, cohésion, guys. » Fait qu'on parle de ça avec Rémi Villemeur. La panne informatique qu'il y a eu aujourd'hui. Rémi, il dit « Faut apprendre à être heureux dans ces pannes-là. » Comment qu'on peut être heureux quand on ne va pas sur X?
La déconnexion.
Mais Pascal!
Moi, j'ai hâte de l'entendre parce que c'est une des affaires...
Je suis pas capable de lire Pascal Bérubé qui m'envoie des X à chaque jour.
Ah, tu fais des
Je vis-tu? Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, qui est mon extension de ma main. T'as raison que je fais des farces. On parle de tout ça après la pause. Vous êtes à Boulevard 102, l'émission de l'Enjase.
C'est le moment, puis vous avez commencé depuis quelques jours maintenant à faire l'entretien de votre véhicule parce que vous m'en parlez, puis ça me fait bien rire, là. J'ai l'impression qu'il y a des petites clowns qui s'amusent à demander des conseils. Je ne peux pas vous en donner beaucoup, mis à part sur mes produits chouchous qu'on trouve chez les pièces d'auto économiques. Entre autres, je peux vous dire d'aller vous acheter du Rain-X. Chose que mes collègues aussi vont faire parce que je suis un peu tannante avec ça. J'adore ce produit-là. C'est ma découverte depuis quelques années, puis on en a chez pièces d'auto économiques. T'es jamais laissé à toi-même. Voilà pourquoi j'ai quelques trucs à vous donner parce que même si t'es pas un pro du moteur, tu es capable de te débrouiller avec les conseils qu'ils vont te donner. Si tu es débutant ou pro là, dans le domaine, ils sont là. La gang est là pour te guider vers les bonnes pièces au meilleur prix. Tu ne te tromperas pas avec eux et c'est du vrai bon service de qualité donné par du vrai monde. On a tous besoin d'entretien de notre véhicule au moins 2 fois par année. Et là-bas, chez Pièces d'auto économiques, on a 20 marques de pneus, d'essuie-glaces, de batteries, d'alternateurs et encore plus. Puis pendant le mois de novembre, il y a des promos. On pense à vous, on sait que ça coûte cher. Chez Pièces d'auto économiques, qu'on a travaillé fort pour vous offrir les meilleurs prix à l'année, mais encore plus ultra compétitif en ce moment. Parce que tu obtiens 10% de rabais sur les disques de freins de première qualité BrakeMax. Ils sont à forte teneur en carbone. C'est pour un freinage beaucoup plus en douceur. 20% de rabais sur les essuie-glaces aussi de marque Rain-X. Ben là, c'est là où je te dis cours, cours, cours. Ça, c'est parfait pour affronter la neige. Profite aussi de 10% de rabais sur les plaquettes de freins Bosch et 10% de rabais sur les batteries de marque Maison. Pièces d'auto économiques. Le mois de novembre, c'est maintenant. Les rabais, c'est maintenant. Au sein des grandes marques, des pièces neuves garanties, des meilleurs prix. Pièces d'auto économiques, c'est 9 magasins au Québec, 5 centres de distribution, 1 site transactionnel, lepièceéconomique.com.
Chez Mastavocat, on vous accompagne à chaque étape.
Droit 8h, boulevard 102.1. Boulevard 102.1. Le midi, on en jase à boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Oh oui, on adore jaser avec vous de politique, de sport, d'actualité, de sujets plus humains. C'est votre émission du midi à Boulevard 101 de midi à 14h, 418-901-101, évidemment, pour réagir. Vous êtes toujours nombreux à le faire. Pascal, on est toujours en attente de la sortie de Pablo Rodriguez de son bureau. On nous filme encore la porte. Les micros sont prêts. Dès que la poignée bouge, Pascal, ouais. Je t'écris « La porte! »
Je te jure, si je travaillais avec l'équipe d'Infoman, pour moi, ce serait un des segments de mon émission cette semaine. Écoute, cette porte a eu de l'exposure comme pas possible,
c'est
comme porte
clair.
Possible.
Comme porte possible.
Désolé.
C'était parfait. Mis à part la porte, Pascal, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité?
Oui, bien là, on parle de tramway ce matin, mais d'expropriation liée à ce projet-là sur la première avenue, entre autres. Des commerces bien, bien connus, implantés, entre autres, Pizza Salvatore, Couche-Tard, mm-hmm. Brûlerie, Limoilou. Enfin, on veut réaliser le tramway. La Ville de Québec vient de peser sur l'accélérateur du côté du processus d'expropriation. L'administration Marchand a donc, dans sa ligne de mire, au moins 2 restaurants, le café, le dépanneur, un stationnement, plusieurs logements. En fait, ils sont tous situés, ces bâtiments-là, le long de la première avenue. Et tout porte à croire qu'ils seront détruits, littéralement. Ça fait jaser, c'est sûr, c'est des lots complets, des lots visés, où il y a des institutions et qui sont des commerces de proximité. Hein, à l'arrêt pour les gens gens qui habitent là. Donc, ça fait peut-être beaucoup de mécontents, je te dirais, là, quand on voit un peu ce qui se passe. Il y en a aussi qui sont inquiets de cette démolition complète-là, en disant, bon, dans cette situation-là, on comprend que c'est pour un projet, mais quelle sera la suite du quartier? Il n'y a pas d'endroit où on va pouvoir faire ces commerces-là aux alentours. C'est quand même assez construit.
Exactement. Peut-être que si on réussit à construire en hauteur, on va mettre du commercial.
Le dépanneur, le café, le Salvatore, tout dans une tour, hein, une grande tour dans les raies. Là.
Et voilà! On veut de la densité urbaine, Pascal, avec le tramway.
Mais le coût des acquisitions n'est pas encore dévoilé parce que les négociations avec les propriétaires sont en cours. Mm-hmm. Donc, chose certaine, les sommes vont faire partie de l'enveloppe globale de 7,6 milliards de dollars du méga projet. Accusé de tentative de meurtre pour avoir foncé avec sa voiture sur la centrale du SPVQ, ça s'est passé hier. Pierre-Olivier Jobin, 32 ans, bien, il a comparu ce matin pour répondre à 7 chefs d'accusation. Le ministère public demande une évaluation psychiatrique. Hier, en journée, bon, on apprenait ça, voyons. Même à toute vitesse, là, le véhicule de Jobin qui a foncé dans le poste d'accueil de la nouvelle centrale de police. On a demandé à ce que ce soit évalué son état, son aptitude à comparaître parce qu'on ne comprend pas, en fait, ce qui s'est passé. C'est un gars qui n'était pas connu des policiers, qui n'avait rien dans son dossier. Son dossier était vierge, 32 ans, mais tu sais, des chefs d'accusation importants, dont tentative de meurtre, voie de fait grave, voie de fait armée sur un ou des employés du service de police de la ville de Québec. Il a aussi été visé par des chefs de conduite dangereuse, délit de fuite. On l'a gardé à l'intérieur du pénitencier. On va revenir avec tout ça la semaine prochaine en cours, mais c'est un dossier qui fait beaucoup rouler, notamment en matière d'évaluer la sécurité que les policiers ont autour d'eux. La chambre de vote aujourd'hui sur la publication des dossiers Epstein aux États-Unis, c'est important. On dit que c'est un texte qui sera assurément scruté de long en large. La Chambre des représentants des États-Unis qui doit se prononcer à 14 heures, alors dans environ une heure là, cet après-midi, sur le projet de loi qui vise à diffuser l'intégralité des documents qui sont liés à l'affaire Epstein. Un scandale, vous savez, qui colle à la peau du président américain Donald Trump.
Vraiment, et on en a parlé hier justement avec Luc Laliberté, là, avec la représentante républicaine Charlie Taylor Greene qui a décidé de claquer la porte et qui s'est excusé auprès de la population d'avoir autant appuyé Donald Trump dans ses politiques. 418-971-1021 pour réagir parce qu'on va parler de télétravail. Il y a déjà un texto qui est rentré. Envoyez-moi les fonctionnaires au bureau. Je suis tanné de me faire imposer pour payer pour ce monde-là. Ma voisine d'en haut, elle travaille 3 jours par semaine chez eux, puis je te confirme qu'elle travaille pas beaucoup pour les contribuables. Elle fait son épicerie le mercredi après-midi, elle fait du ménage, promène ses chiens, sort le soir. Donc, bref, il n'y a personne pour la surveiller. C'est le premier sujet qu'on va discuter avec Rémi Villemur, en direct de Montréal, excellent animateur au 99.5 Montréal. Rémi, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Parfait. Rémi, on est sur la même longueur d'onde, moi et toi, je le sais. On veut du monde.
Je m'excuse.
Oh, Pablo! Rémi, on s'en va voir Pablo. Donne-moi 2 petites secondes.
Qu'elle ait renvoyé la chef de cabinet, Mme Geneviève Vince, sans m'en parler au préalable, sans qu'il y ait eu aucune discussion à ce sujet. Donc, ça a été un effet de surprise totale pour moi, pour les membres du caucus également. Donc, c'est à mon avis quelque chose de très sérieux.
Et pourquoi elle l'a renvoyé? Elle devait avoir de bonnes raisons, M. Rodriguez.
La question.
J'ai aucune idée. Je ne sais pas quels sont les motifs. C'est ça qui est particulier.
Vous avez pas eu une rencontre avec un avocat hier à ce propos-là, avec Mme Risky?
Mme Risky, lorsque je l'ai rencontrée hier, elle était ici effectivement avec un avocat. Mais j'ai posé des questions à ce sujet pour qu'est-ce qu'il y avait comme faute et ça ne m'a pas été communiqué.
Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'elle pourrait revenir au caucus?
Elle est suspendue, donc qu'on va avoir une discussion entre elle et moi. Je dois réfléchir, elle doit réfléchir également.
Est-ce que vous allez réintégrer Mme Hens?
On verra. Pour l'instant, je ne sais pas comment va Geneviève. C'est quelqu'un pour qui j'ai le plus grand respect, que j'aime beaucoup sur une base personnelle également. Je pense qu'elle doit souffrir beaucoup chez elle. Et j'ai aucune idée, en fait, pourquoi qu'elle est... ce que ça s'est déroulé.
Ça ressemble à quoi, vos relations avec Mme Risky depuis quelques semaines?
Le PLQ, c'est le plus ancien parti de l'histoire du Québec. Le PLQ, c'est ses militants, c'est ses bénévoles, c'est son caucus également. Marois faisait un bon travail. Il y a plusieurs autres personnes qui font un bon travail. J'ai nommé André Fortin comme chef parlementaire. J'ai nommé Marc Tanguay comme whip en chef. Et le caucus, c'est un caucus solide qui va continuer à faire le travail. Mais le PLQ, c'est tous ses bénévoles également aussi à travers le Québec. Alors, je veux les saluer. Je veux les remercier pour tout ce qu'ils font. Et les choses vont bien. Je l'ai mentionné, on a plus de 250 personnes qui ont levé la main. L'argent rentre à un rythme beaucoup plus accéléré. Les exécutifs sont reconstruits, donc ça va bien.
Comment vous qualifiez cette crise au sein de votre parti?
Il se gratte.
Ah, mais ça, vous savez, en politique, je n'ai vécu une coupe. Hein? Je dis, c'est pas pour rien que j'ai les cheveux blancs.
Parfait, on va retourner à Rémi Villemur. Alors, Rémi, pour te faire un résumé, parce que je sais qu'à distance comme ça, tu ne peux pas l'entendre, Pablo Rodriguez a mentionné que Marois Risky avait été démis de ses fonctions. C'est lui-même qui l'a expulsé du caucus parce qu'elle avait congédié Geneviève Hines sans l'en informer, sans en informer justement les hautes instances du parti. Ce qui est particulier, Pascal, c'est qu'il dit ne pas savoir pourquoi Marois Risky l'a congédié. Donc, est-ce qu'il y a anguille sous roche, Rémi? Parce que moi et Pascal, tantôt, on se disait « Ouais, il y a une plainte au DGE contre Mme Hines concernant la course à la chefferie au Parti libéral. » Alors, est-ce que Marois Risky ne dévoile pas toutes les informations à Pablo Rodriguez parce que lui aussi serait peut-être visé par cette plainte-là?
Ben, c'est une possibilité, là. Moi, je ne m'aventurerai pas plus loin sur cette question-là. Mais
moi non plus.
Ce qui est sûr, non, oui, j'ai bien noté, mais ce qui est sûr, c'est que quand on organise une conférence de presse comme celle qu'il vient d'accorder, on ne peut que dire ce qui fait notre affaire, ou en tout cas, on fait semblant. T'sais, ce qui nous fait mal paraître davantage, parce que c'est une très, très, très mauvaise journée pour le Parti libéral du Québec, ben on ne le dit pas. Donc, s'il n'a pas l'avantage à dire qu'il sait pourquoi elle a été démise de ses fonctions, Mme Hines, ben il ne va pas le dire s'il n'a pas avantage à le dire. Là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, moi, à chaque fois qu'il y a des sondages sur la cote de popularité du Parti libéral du Québec, il y a une chose qui m'échappe. Pour un parti qui se fait très discret, il réussit quand même à se tailler une place pas trop loin du Parti québécois en matière d'intention de vote. Hein. Au dernier sondage, c'était 27 % versus 32. Mm-hmm. Par contre, dans le dernier sondage léger, on interrogeait les Québécois aussi sur la cote de popularité de Pablo Rodriguez. Hein. On mesurait quel était le chef le plus populaire de parti, le meilleur premier ministre selon les Québécois. Et Pablo Rodriguez arrivait à peu près ex aequo avec François Legault. Hein. Donc, François Legault était à 14 % et je pense que Rodriguez était à 17. Donc là, il faut juste se rappeler une chose. Le Parti libéral du Québec réussit à monter dans les sondages parce que l'axe souverainiste fédéraliste revient. Ça redevient l'axe qui est la pulsion centrale du jeu politique au Québec. Et on a une CAQ qui est ambivalente et en plus qui est vieillotte. Hein, ça fait déjà près de 10 ans qu'elle est au pouvoir. Mais le chef, Pablo Rodriguez, n'a pas encore réussi à faire en sorte que les Québécois tombent en amour avec lui. Mm-hmm. Il donne peu de conférences de presse, il donne peu d'entrevues, il est peu charmant, il a l'air fatigué. Il s'est absenté pour des raisons de santé. Il y a eu, des traitements aux yeux.
Oui.
T'sais, il s'est absenté, donc. Et là, aujourd'hui, la plus populaire à l'intérieur du caucus du Parti libéral, celle qui avait annoncé qu'elle s'en allait, eh bien, elle est jetée en bas de l'autobus à 11 mois de l'élection. Donc, ça va être très, très, très difficile pour le Parti libéral du Québec.
C'est à se demander si on ne voulait pas faire de vague en ne sortant pas pour Pablo Rodriguez, mais aujourd'hui... Il y a quand même le genre de structure qu'on pensait revoir ou ravoir au Parti libéral qui s'effrite. On a une politique assez pauvre, je dirais, ces temps-ci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Là.
Mais oui, effectivement. Là, mais tu sais, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment ce matin qu'on a su que... Hein, c'est l'information qui a tout fait chavirer, là, c'est M. Rodriguez n'a pas été averti. Pablo Rodriguez n'a pas été averti. Quand ça a été coulé, ça, dans les médias, il n'y avait pas le choix, comme chef qui n'est pas à l'Assemblée nationale, il n'est pas élu. Hein. Lui, il est sur la route, là. Il est comme Éric Duhaime, là.
Oui, il fait le tour des régions.
Comme Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, ça fut son cas avant l'élection 2022. Donc, dans cette position-là, qui est très vulnérable, il ne pouvait pas laisser ça passer. Je pense qu'il y avait quand même une option supplémentaire. Il aurait pu convaincre Marois Risky de sortir et de dire, regarde, tu t'en vas dans 11 mois. Là, honnêtement, tu as peut-être le destin à très court terme du Parti libéral du Québec entre les mains. Il faut que tu t'arranges pour dire que tu t'excuses, tu aurais dû avertir le chef. Parce que là, si tu ne fais pas ça, moi, je parais mal, je te mets dehors, tu es la plus populaire. Il n'a pas été capable de la convaincre. Ça laisse peut-être croire que le conflit n'a pas commencé ce matin ou hier ou avant-hier.
Oui, en effet.
Que moi.
En effet, ça laisse croire que c'est un conflit justement qui s'est animé, qui a grandi de semaine en semaine, de mois en mois, et que là, on est devant l'irréconciliable. Parce que sinon, il y a un mouvement qui se serait fait, surtout que Marois Risky, son conjoint dans le caucus du Parti libéral, c'est une libérale depuis la nuit des temps. Alors, de tourner le dos comme ça à son parti, 11 mois avant qu'elle quitte, 11 mois avant l'élection, c'est qu'il y a vraiment un conflit de personnalité entre les deux. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, bien vu. C'est très bien vu. Des fois, il faut. Ces gens-là sont des gens de conviction. Oui, ce sont souvent des gens qui ont des intérêts individuels, personnels à faire valoir, mais ce sont des gens qui appartiennent à des formations politiques depuis des années, qui ont donné du temps, de l'argent à ces partis politiques-là. Alors, quand ils sont prêts à claquer la porte de cette façon-là, c'est pas parce qu'on s'est accroché dans le couloir, c'est pas parce que quelqu'un a utilisé un seul mot qu'il ne fallait pas utiliser. C'est une accumulation. Donc, moi, je pense que ça fait des mois que ça dure. Je pense pas que c'était forcément son candidat préféré aussi, Pablo Rodriguez, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie. Et voilà ce que ça donne. Donc là, les libéraux vont avoir beaucoup de difficultés parce qu'ils se débrouillaient bien dans l'ombre, très discrets. Hein, ils esquivaient tous les enjeux politiques. Ils ne se démarquaient pas, mais ça leur était payé. Et là, il va falloir, au contraire, qu'ils aillent sur la place publique pour retrouver un semblant de sympathie populaire. Mais ce n'est pas la stratégie qui a été la leur depuis, deux ans?
Non, en effet, avec Marois Risky, avec Marois Risky à la tête des libéraux, on s'était positionné en faveur de plusieurs politiques qui rapportaient à la population, voire la semaine dernière, au niveau de la grève à la STM, de devancer le projet de loi de Jean Boulay. Ça me permet de faire un crochet justement sur notre sujet qui est le télétravail. Pas surprenant, QS qui déchire sa chemise en disant les fonctionnaires devraient avoir le droit de travailler à la maison, ça n'a pas d'allure que le gouvernement les force à revenir 3 jours au travail. Plus surprenant dans mon cas que le PQ embarque là-dedans, parce que Rémi, on ne se le cachera pas. À un moment donné, ça en prend une cohésion d'équipe. Ça prend des gens qui travaillent ensemble, je le sais qu'on est de cet avis-là, et je suis déçu peut-être du futur gouvernement du Parti québécois de démontrer cette mollesse-là.
Bien, en tout cas, ce qui est un peu incohérent, là, c'est qu'au Parti québécois, on a dit dans les derniers mois qu'on était pour la refonte de l'État, on était pour revoir certaines conjonctures, certaines tendances, certaines traditions hein, de tout penser par l'État, de tout passer par la bureaucratie. Puis là, on avait une belle occasion, effectivement, de dire, bien, écoutez, non, là-dessus, je pense qu'on va encourager le retour une journée de plus, hein, en passant, parce que là, les fonctionnaires peuvent rester 3 jours minimum à la maison, dans certains ministères, et là, il était question de les ramener une journée de plus. Moi, là, je ne comprends pas une chose. Quand il y a eu la COVID, on s'est tous ramassés, ou presque, en télétravail.
Confinés à la maison.
Par la suite, on a dit, c'est la nouvelle façon de vivre, ça ne changera pas, les tours à bureaux vont être transformés en condos, les centres-villes vont devoir se réinventer. Et là, le naturel est revenu au galop, hein? Après avoir été chassé, on s'est ennuyé du monde, on s'est ennuyé de notre monde, on s'est ennuyé des contacts, on s'est ennuyé des discussions autour du micro-ondes et même de la mauvaise haleine de notre collègue. On se disait... On s'est dit, on passera pas quand même notre vie à la maison. Ouais. Je veux dire, c'est pas fait de même la vie. Et là, il y a eu des études fascinantes, qui ont été faites dans les dernières années à travers le Canada. On offrait des cartes avec des codes de couleurs pour voir là où il y avait le plus de télétravail. Et, mes chers amis, où est-ce qu'il y a le plus de télétravail au Canada? Dans la région de l'Outaouais, là où il y a une forte concentration de fonctionnaires fédéraux. Pourtant, on nous a dit, les entreprises ont compris le message, il faut ramener les gens à la maison, les organisations ont compris le message, les gens ne sont pas plus productifs à la maison qu'ils ne le sont au travail. Pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, le sens commun est assez utile là, dans cette réflexion-là. Si vous avez quelqu'un qui regarde au-dessus de votre tête ce que vous êtes en train de faire, ça va plus vite que s'il y a juste votre chat qui est au-dessus de votre tête. Et il y a juste, finalement, il y a juste le gouvernement. Il y a juste le gouvernement où là où il y a encore ce chantage-là, où on nous dit, même si c'est faux, la vie a changé, le travail a changé, il faut s'ajuster. C'est pas vrai, ça. Tout le monde s'est ajusté, tout le monde a changé, tout le monde est redevenu à la mode qui était avant celle de la COVID. Alors, le chantage ne doit pas fonctionner. On ne doit pas se laisser avoir par le chantage.
Moi, Rémi, une chose est sûre. je serais pas capable de travailler à distance. Et c'est vrai, dans la pandémie, je travaillais pour un organisme communautaire. J'étais tellement content qu'on fasse de l'aide alimentaire. Ça me forçait à être au travail 4 jours sur 5. J'avais juste une journée en télétravail. J'ai besoin de ce contact humain-là. Toi, Pascal, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses de ce télétravail-là?
Bien, honnêtement, c'est dur, nous autres, hein, de se prononcer parce que c'est très difficile, le télétravail en radio. Moi, je l'avais fait parce que mon ex, à cette époque-là, avait été dans les premiers cas de la COVID. Ouais. Fait qu'il ne savait pas du tout ce qui allait arriver avec ça. Puis, il nous avait confinés. Là. Le gouvernement nous appelait chaque jour pour savoir ce qui se passait.
5 semaines à confiner, je me trompe.
Écoute,
pas.
Juste pour vous faire rire, moi, je l'avais enfermé dans le bureau. J'y apportais ses plateaux repas. Puis, il ne sortait pas du bureau. Là.
Il était comme au trou.
Il était au trou.
Pascal a mis son ex-chum au trou. Rémi Villemot, t'entends-tu ça?
Je faisais de la radio. De la cuisine, tu sais. Et ça coupait tout le temps et tout ça. Donc, on est très mauvais juge là-dedans. Il y a une question, par contre, que je me pose.
Vas-y donc.
Si j'étais gestionnaire, je pense qu'il faudrait que je gère mon déficit de confiance par rapport à l'être humain. Hein. Mm-hmm. Parce que quand tu travailles à la maison, tu fais 150 choses, ça se peut que ça soit hyper productif et ça t'aide réellement à travailler parce que tu fais ton lavage en maintenant. Mais j'entends tellement... Mais tellement des gens dire que dans les commerces de proximité, les coiffeuses, les esthéticiennes, les Costco, il y a du monde et pas à peu près.
C'est ça.
Puis j'ai bien de la misère à croire que ces gens-là ne sont que des gens qui ont un horaire variable.
Ouais, un horaire atypique.
Atypique. Et mon deuxième point là-dedans, c'est le social. Combien d'auditeurs m'ont dit après la pandémie, parce que je posais la question en onde, comment ça va votre social? Ah, oh, moi, je suis bien content, je suis un ermite, ça me fait du bien. Puis un an plus tard, c'était comme, hey, je me rends compte que je parle à personne si on vit seul, du côté de ces auditeurs-là, ou que je ne vois que ma famille. Je pense que ça peut avoir des dommages collatéraux qui sont forts. Je suis entre les deux, mais je tiens à un présentiel, c'est sûr.
La santé mentale, Rémi, hein, Pascal amène tellement un bon point. La santé mentale, puis moi, c'est pour ça que je suis pour le 5 jours au travail.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'ai eu cette discussion-là depuis 2-3 ans avec toutes sortes de monde, puis des gens qui sont en télétravail, qui essayent de me convaincre qu'ils sont aussi productifs, sinon plus de la maison qu'au travail. Je suis désolé. Je suis difficile à convaincre, je suis peut-être un peu têtu aussi sur le bord, mais ça va me prendre plus que ces arguments-là. Et souvent, ce qui arrive dans ces discussions-là, hein, plus elles se prolongent, c'est que je me rends compte que la personne est en train de me dire qu'elle trouve ça plus agréable, au final, de travailler de la maison. Et là, tu te dis, mais le travail, c'est pas censé être agréable. C'est-à-dire, sans dire que c'est censé être désagréable, le travail, c'est un travail, c'est un emploi, c'est pas une partie de pêche. D'ailleurs, si le travail, c'était agréable, on n'aurait pas besoin de prendre congé du travail, on n'aurait pas besoin de vacances, ça serait pas pensé comme ça, le travail. Je préfère un travail dans lequel je m'accomplis et je trouve des moments de joie.
Ah oui, on a un excellent travail pour ça, on s'entend.
Oui, et c'est pour ça que je l'ai choisi, ce travail-là. Mais tu peux pas prendre au sérieux l'argument voulant que c'est un désagrément d'aller travailler. Ça a toujours marché de même. Puis je veux dire, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on te donne un salaire. C'est un petit peu pour ça qu'on te demande d'arriver à l'heure. C'est un petit peu pour ça que tu as des responsabilités. T'sais, on repensera pas le travail parce qu'il y a eu une pandémie qui est totalement terminée, là, soit dit en passant. On peut passer à autre chose. Là, on peut avancer, là.
Donc, Rémi, tu nous proposes d'avancer. Je te lis quelques réactions parce que ça fait énormément réagir notre sujet. Et merci beaucoup d'interagir au 418-971-1021. Isabelle qui dit « Je suis en télétravail et oui, tellement moins de perte de temps. Perso, je suis plus performante chez moi. Toutefois, c'est vrai, je m'ennuie du monde. Donc, j'ai 2 jours en préventiel. C'est super. J'adore l'hybride. Je choisis mes journées car, comme toi, j'ai besoin du contact humain, étant en plus célibataire. Donc, excellent point de la part d'Isabelle. Pascal, vas-y, continue de nous lire ça.
Il y en a plein d'autres, des gens qui disent hey, « Honnêtement, moi, le temps que je perdais à répondre aux questions quotidiennes avec mes collègues, ben, je perdais énormément de temps au travail, tandis que ma brassée de lavage prend 15 minutes à partir, par exemple. » Je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre qui dit « C'est dommage que certains prennent pas au sérieux le fait de travailler à la maison. En faisant semblant, ils font perdre leur avantage à ceux qui travaillent littéralement. Je suis au privé après 3 ans à la fonction publique, puis mon employeur nous donne l'option. Mais si tu travailles pas pour de vrai, c'est facile de s'en rendre compte. » Et tu perds ton droit. Je pense que cette façon-là de surveiller, elle l'apprécie. Personnellement, juste le fait d'avoir la permission de choisir quand je vais au bureau me donne envie d'y aller plus souvent versus avant. Quelqu'un d'autre qui dit « Allô, des fois, c'est pas une question de travail, de vouloir être en télétravail. J'habitais à Sainte-Brigitte-de-Laval puis je travaillais à Saint-Nicolas. Et le soir, ça me prenait 1h30 à 2h de trafic. Avoir été chez moi, j'aurais pu travailler au lieu d'être dans le trafic. » Je trouve ça intéressant, ça aussi.
Marie-Josée aussi qui mentionne qu'elle est sur la rive sud, qu'elle travaille sur la rive nord et si elle était toujours obligée d'aller au travail, elle regarderait sûrement pour un autre emploi parce qu'il y a trop de perte de temps dans le trafic avec ses enfants. Rémi, c'est un excellent sujet. Ça fait réagir nos auditeurs. On parle beaucoup de ça, hein, trafic, perte de temps. Et je termine là-dessus, Rémi. Je pense que c'est la preuve qu'on a très mal imaginé nos structures aussi avec le boom démographique au Québec, le boom d'immigration.
Oui, puis je pense aussi qu'on a besoin de se réconcilier avec le temps long. C'est-à-dire que quand on nous a dit pendant la COVID que le monde allait changer parce qu'il y avait un virus qui circulait, on a peut-être été trop nombreux à les croire, ces gens-là. Parce que moi, j'ai une pensée pour ceux qui ont acheté une maison en banlieue puis qui se sont dit, ben écoute, je veux dire, j'aurais plus besoin d'aller travailler au centre-ville ou j'aurais besoin d'y aller juste une, deux fois semaine. Puis là, ils se font dire par leur patron dans la fonction publique, écoute, ton salaire est payé par les contribuables puis ils aimeraient ça, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui te surveille pendant que tu travailles. Puis là, ces gens-là disent, et je les comprends, Colin, mais je veux dire, je veux passer ma vie dans le trafic. Ben oui, mais c'était peut-être pas une bonne idée de croire les gens qui disaient qu'une pandémie allait tout changer, les structures humaines. Tu sais, c'est... fallait se peut-être savoir que la vie est longue, que l'histoire est longue et que les gens reviennent toujours aux bonnes vieilles habitudes.
Rémi, tu as toujours un super franc-parler. Tu nous fais des chroniques exceptionnelles. Tu es avec nous du mardi au jeudi. Au plaisir de se reparler jeudi aux alentours de 13h. Et merci pour cet excellent sujet.
Ben ouais, c'était une chronique en télétravail.
Salut!
Wow!
Salut! Rémi Villemur, que vous pouvez entendre du lundi au jeudi de 18h à 19h sur les ondes du 99.5 et le samedi matin de 8h à 10h. Ça continue de réagir, hein, Pascal?
Ben, oui, puis il y a une chose quand même dans son discours final à Rémi qui est, moi, et dans mon questionnement
donc,
par rapport
vas-y.
À ce genre d'enjeu-là, à moins que ce soit à ton contrat, OK? Que tu as le droit et tout ça, si c'est juste une technicalité qui a été dit puis qui a été adaptée en pandémie, puis du jour au lendemain, on dit, ben, tu reviens au bureau. Je comprends pas la revendication personnelle de ça. Mm-hmm. Parce que ça faisait partie d'un moyen d'adaptation à une situation. Je ne comprends pas le solidarité, le genre de manifestation quand on s'est adapté. Maintenant, on vous demande de revenir au travail. C'était pas un droit acquis. Dans certains contextes, c'est pas un droit acquis.
Je suis tellement d'accord.
Je comprends pas cette mesure-là, là, de pas un trouble de l'opposition, mais d'opposition dans ces cas-là. Si c'est au contrat, si c'est entendu, c'est écrit, si c'est quelque chose qui faisait partie de ton travail initialement, puis du jour au lendemain, tu peux poser des questions. Mm-hmm. Mais quand c'est vraiment juste une mesure d'adaptation, si tu as pris des décisions, toi, d'aller vivre un petit peu plus loin parce que c'était possible, puis à un moment donné, c'est coupé, je comprends que tu peux être déçu et tout ça, mais je comprends pas le besoin d'autorité personnelle face à un patron qui vous demande de retourner. Je ne sais pas si c'est moi qui est dans le champ. Là.
Non, je suis d'accord, puis je comprends pas non plus pourquoi les syndicats viennent déchirer leur chemise en disant « ça n'a pas d'allure
».
Ils nous demandent 3 jours au travail. C'est un droit de gestion.
T'sais, à moins que ce soit vraiment écrit là, dans le contrat, puis qu'il y a des gens qui aient signé en conséquence, parce que ça, j'y crois, ça se peut aussi. Quand tu arrives, puis c'est entendu que, puis ça change après 2 mois, puis tu as pris des décisions en conséquence, go, allez-y.
Ça, c'est clair que moi, pour l'avoir vécu comme gestionnaire, quand on est sorti de la pandémie et qu'on recrutait des nouvelles personnes, il y avait des gens qui nous le demandaient. Est-ce que je vais pouvoir faire 2 jours de télétravail à la maison? Puis là, à ce moment-là, c'est une entente que tu as avec ces gens-là.
Verbal et écrit, ça compte.
Exactement. C'est une entente que tu as avec ces gens-là, mais du côté du gouvernement, il n'y a pas de contrat de fonctionnaire qui dit vous allez être 2 jours en télétravail. Travail.
On s'est adapté à la situation, puis maintenant, ben, on a envie de revenir à la normale que l'on connaissait avant la pandémie. Ça, côté opposition, je le comprends moins.
Mm-hmm. Mylène, qui est entièrement d'accord avec toi également, Pascal. C'est fou comment on nous parle du trafic, par contre. C'est là qu'on voit que c'est un irritant majeur dans la vie des gens. Énormément de gens qui sont en télétravail qui disent « Hey, je ne retournerai pas 5 jours en présentiel parce que je vais être pogné 1 heure dans le trafic à chaque jour. » Fait que mon petit 2 jours... Je l'accepte, la pilule passe, mais le reste, j'ai vraiment de la difficulté. Je me rends compte que le trafic est tellement irritant.
On les comprend. On s'entend que c'est pas une généralité de gens qui travaillent mal aussi là, à la maison. Je veux dire, tu le sais, j'arrive très short par rapport à l'émission. Bon, assez pour si mon pneu crève, je suis à l'heure quand même. Là. Mm-hmm. Mais j'aime ça me concentrer. Dans le silence, on lit des textes d'actualité. Il faut se rappeler si on regarde de faire des liens avec le passé et tout ça. Puis ici, ben, j'appelle mon zoo préféré. Là. Tout le monde est content de se voir.
Pas bruyant partout dans le bureau aussi.
C'est super bruyant.
Voyons donc.
l'air bête quand tu réponds pas trop aux conversations.
Oui, non, Pascal. Pas vrai, ça?
Fait que je... pas toi, là, mais en général.
Ben non, mais tu vas à la voix de trompette que j'ai.
C'est une gang de créatifs. Fait que je le comprends que ouais. les gens aient plus la capacité de travailler à la maison. Puis, tu sais, pour des gens qui sont un petit peu plus ermites, qui se concentrent mieux, des TDA, ça peut aider. Puis, moi, j'y crois qu'il y en a qui travaillent mieux dans ces contextes-là. Mm-hmm. Où j'allais avec mon point, c'est que ça peut sûrement permettre à des gens de rester à des emplois parce que, ou encore de stabiliser sa santé mentale entre travail, famille, puis trafic actuellement. Oui. Quand tu perds une heure et demie, deux heures dans le trafic, il faut aller chercher tes enfants à la garderie. T'es pas arrivé à la maison avant 18h, 18h30, t'as pas fait les devoirs et leçons, mm-hmm. souper pas. Hey, la vie, là, est courte.
Hein? Ah oui. Moins de stress et d'anxiété,
moins
c'est clair.
Moins de stress d'anxiété. Si ça peut changer puis garder du monde ouais. au bureau, je le comprends aussi.
C'est clair. Claire, Claire. Pascal CV, on fait une courte pause. Par la suite, il faut que tu nous parles d'une histoire que tu as vécue en fin de semaine d'aide médicale à mourir. Puis avant, on va juste te donner un petit souffle pour que tu nous parles de ça avec le gala de lutte de vendredi, NSPW,
oui.
la gravelle. Puis on va faire un peu de sport parce que le Canadien a encore perdu hier.
Là, je ne sais pas où vous en êtes. Là. J'espère que votre morale est d'acier hein, parce que je sais que c'est commencé la saison du Canadien avec tellement d'enthousiasme. Sinon, ben, c'est la petite bière, hein, la prescription oui. de Denis Gravel, la bière à la gravelle. Allez chercher. Elle est encore au Chaloux. Elle est encore disponible aussi à la brasserie Malco au marché Jean Talon de Charlebourg. C'est une bière blonde lager à 4,4%. C'est une bière qui se boit bien, légère, rafraîchissante. C'est vraiment le contraire de Denis Gravel. Donc, vous allez avoir un plaisir, c'est certain,
en
buvant la Gravel. Édition 10 ans de boulevard. Puis là, pourquoi il a brassé ça? Pourquoi ils ont brassé ça? Pour une bonne cause. Parce qu'une partie de chaque bière vendue, une partie des profits qui est remise directement à la bouchée généreuse. Vous savez, la bouchée généreuse, organisme qui aide à nourrir les familles dans le besoin. C'est un peu notre façon de célébrer en redonnant à la communauté d'avoir créé cette bière-là.
Oui.
Et on a une autre façon aussi de redonner à la bouchée généreuse. Le total des profits qui vont se faire au niveau de la NSPW vendredi, le gala de luttons contre la faim, qui oppose Yannick Marceau, sa gang de lutteurs professionnels, et Virginie Gagnon avec sa propre gang de lutteurs professionnels, c'est ce vendredi. Il reste des billets. Chacun des billets va directement nourrir des familles d'ici. C'est pas rien. Puis ça a un impact majeur parce que le montant amassé à la fin là, du gala de lutte, là, ben nous, on le double dans le sens où ils font affaire, la bouchée généreuse, avec des supermarchés, des grandes surfaces qui leur en donnent le double, qui en font 50 % en fait, de plus avec le montant initial. Fait que si on ramasse 20 000, par exemple, c'est 40 000 automatiquement.
Exactement.
Ça en va boucher généreuse pour un super vendredi.
Donc, imaginez le nombre de familles qu'on peut nourrir avec ce montant-là. C'est 25 $ le prix du billet. Allez-y, les animateurs de boulevard, on va être présents également. Venez nous voir.
À la maison, là, ils ont du gaz pour 150 000. Vous êtes tannés. Vous savez que Noël arrive. Novembre, c'est gris. Vous ne savez pas quoi faire. Ouais. Chacun des participants vendredi va faire une différence dans sa communauté, puis vous allez en faire brûler du gaz à votre enfant. L'affaire, c'est que nous, là, on a un droit là, qu'on n'est pas responsable, en fait, de l'énergie des enfants,
non.
puis de l'envie d'être lutteur
et
par la suite.
Sachez là. Que les enfants peuvent crier tout ce qu'ils veulent à la lutte.
C'est un défouloir.
C'est ça.
Moi, on s'est défoulé beaucoup là, sur ma personne l'année passée. Là.
Ouais,
je jouais le rôle de la méchante,
ah,
vous avez été bon.
Bon. C'est un excellent défouloir. Parlant de défouloir, en fait, tu sais, mon amateur de lutte préféré, Edouard Fortin, il a
oui.
16 ans aujourd'hui, mon gars.
Ah, bonne fête,
oui,
Edouard.
C'est la fête de mon beau et doux d'amour que j'aime.
Ton plus vieux est passé adulte.
Ouais.
T'en as un à 2 ans de l'être. C'est fini,
l'être.
Papa Jeff.
Et Papa Jeff, il n'y a plus même de colleux. Il faut qu'il prenne par surprise pour avoir un colleux. C'est comme ça que ça fonctionne.
Mais il y a une leçon de vie là-dedans, puis je pense que c'est un petit pont, en fait.
Ah,
segment
ouais.
après la pause, après le
oui.
Canadien. Je me souviens quand tu es entré ici, où tu étais chroniqueur, dans le temps que je travaillais avec
ouais.
Ridge le matin, puis tu as amené tes gars
oui,
dans
matin.
Un voyage sportif. Non?
Oui, dans
sportif.
Un voyage sportif en Californie.
Puis tu avais dit, c'est pas mal ma dernière chance de les avoir tous en même temps. Là.
C'est ça.
Tous les gremlins en même temps dans un voyage père-fils. Puis ça m'est resté gravé. J'ai pas d'enfant.
Oui.
Mais je trouve ça important. Puis si c'est parce que vous n'avez pas les moyens d'aller en Californie, c'est pas grave.
Non, non, non.
Mais d'arrêter le temps comme ça,
vraiment.
Ensemble. Je trouvais ça merveilleux.
Ah, t'as entièrement raison. Puis ma blonde Val qui a écrit un super beau mot à Edou ce matin. Elle a dit, elle l'a remercié de qu'il soit son acolyte quand je pars dans des lubies. Je sais pas, c'est quoi des lubies? J'ai-tu une lubie sur la porte tantôt?
Continue donc avec le Canadien. Toi, ben à moi, c'est une lubie, là?
Non. Le Canadien de Montréal hier a perdu 4-3 en tir de barrage contre les Blue Jackets de Columbus. Pascal, ça s'est passé comme ça. Il perdait 3-1 après deux périodes. Ils ont marqué deux buts en troisième, dont celui-ci.
Thompson qui reprend encore, permutation avec Hudson. Hudson,
encore Lane Hudson, cet excellent défenseur du Canadien.
Qui a dévié, je pense, devant le filet, sur le tir de Lane Hudson. Et c'est l'égalité, 3-3.
Alors là, les partisans étaient tout feu, tout flamme, mais ce joueur est venu gâcher tout.
Qui a 3 buts en 3 occasions cette saison. Marchenko devant Dobesh. Quel défi, le tir!
L'excellent jeune joueur Kirill Marchenko des Blue Jackets de Columbus a scellé l'issue du match en tir de barrage, tout de même un point pour le Canadien. Prochain match jeudi face aux Capitals de Washington et Alex Ovechkin. Courte pause à Boulevard 102.1, l'émission On en jase et par la suite on parle d'aide médicale à mourir.
Oui, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, ouais. Je ne sais pas si vous allez avoir à le vivre. Moi, j'en parle encore avec ma soeur hier par festin.
Parfait. Donc, on parle de ça immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102. Voyager en anglais ou en espagnol pour moins cher, ça vous intéresse? Ça doit t'intéresser, ça, Pascal Cévé, de voyager pas trop cher?
Oui.
Et voilà bien. Sache que à la maison anglaise, nous offrons les seuls voyages garantis sans bagages, sans stress et sans décalage horaire. Départ à toutes les heures, 7 jours par semaine. Laissez-nous vous aider à visiter Paris avec Emma Deneuve, voyager en enfer avec R.F. Kuang, manger un sandwich avec Gordon Ramsay ou découvrir comment tout le monde dans ma famille a tué quelqu'un. Votre imagination est la seule limite. Achetez local et voyagez dans le monde entier dès aujourd'hui. Nous avons des centaines de livres en magasin et des milliers de livres en audio en ligne pour vous amener n'importe où. C'est facilement accessible en voiture, en bus, à vélo, à pied. Faites le voyage jusqu'à la maison anglaise, Place de la Cité, ou visitez le www.lamaisonanglaise.com.
Hey, l'imaginaire. Boulevard 102.1.
Émission On en jase, édition du 18 novembre, 13h48. Cette émission tire à sa fin. Pour vous dire, la météo, 1 degré à l'heure actuelle, possibilité d'averse de neige, 1 degré demain, alternance de soleil et nuages, et 0 degré jeudi, même principe, alternance soleil et nuages. Pascal, à la circulation?
Oui, je veux juste rementionner qu'il y a eu en fait des pratiques au niveau des policiers sur les réseaux routiers depuis ce midi. En fait, si vous voyez des cortèges de véhicules du SPVQ, bien, on travaille pour faire en sorte qu'on soit prêt. Donc, c'est une présence inhabituelle d'autopatrouille du service de police de la Ville de Québec dans différents secteurs de la ville. Ils ont été constatés, les gens appelaient. Qu'est-ce qui se passe? On a rapporté aussi avoir vu des rues temporairement bloquées, des véhicules policiers qui circulaient en urgence sur plusieurs artères, sur des boulevards. C'est vraiment une pratique d'escorte policière.
Merci beaucoup, Pascal. CV. Pascal, on parle beaucoup d'actualité à l'émission d'Angers, mais on parle aussi de relations humaines. Et tu as vécu un événement particulier cette fin de semaine, c'est-à-dire que tu as accompagné quelqu'un dans l'aide à mourir.
Oui, c'était ma première fois. Puis j'ai encore un travail personnel à faire sur comment je l'ai reçu, parce que l'aide médicale à mourir, je m'en suis fait parler. Comme quoi, c'était merveilleux, des fois, de pouvoir accompagner quelqu'un qu'on aime jusqu'à la fin, puis savoir, elle est quand à la fin. Donc, tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à donner comme amour et tout ça, tu es capable de le faire au grand déficit d'une crise cardiaque, par exemple, d'une maladie fulgurante, d'un accident de voiture. Il y a quelque chose de magnifique, mais j'ai vu beaucoup aussi d'anxiété dans le processus au niveau des proches qui disaient « Moi, je serais peut-être pas capable de voir ça, d'assister à ça. » Puis c'est une nouvelle mesure. On s'entend depuis quelques années qu'on donne cette possibilité-là. Puis on est constamment en train de faire du chiffrage de statistiques. Allons-y avec quelque chose qui est moins humain au départ, oui, mais des faits saillants, tu sais, pour l'aide médicale à mourir. On a 5 rapports annuels jusqu'à maintenant qui sont sortis au Canada avec le résumé des demandes, des évaluations. Bien, d'abord, vous savez, il faut avoir 18 ans et plus pour être admissible. Il faut avoir un problème de santé grave irrémédiable, donc maladie longue ou handicap grave, dans un déclin avancé, irréversible, en fait, avec des souffrances physiques ou psychologiques insupportables. Il faut être capable de fournir un consentement éclairé puis être admissible aux services de santé qui sont financés par la province ou le territoire. Donc, ça, c'est dans les technicalités. On voit dans les données que plus de 20 000 demandes d'aide médicale à mourir déclarées par Santé Canada par année ou presque. Là, ça varie. Des années, on a plus. Des années, on a moins. Mais c'est en augmentation, en fait, depuis 2023. On n'en tire pas beaucoup de conclusions fiables jusqu'à maintenant, à savoir si les constatations représentent ou non une stabilisation du taux de croissance à long terme, mais c'est pas très important. Ce qui importe là-dedans, c'est de savoir que ça aide beaucoup, mais plusieurs décèdent aussi avant.
Ouais. Et toi, comment tu l'as vécu, comment la famille l'a vécu, dans le sens que on sait à quelle heure on va partir, donc... t'sais, on abrège les souffrances de la personne, honnêtement, avec ce processus-là. Comment ça s'est vécu, justement, en fin de semaine?
C'est une personne qui avait, en fait, une maladie depuis plusieurs années, là, qui, malheureusement, s'est amplifiée avec une erreur médicale.
Ah, non.
Puis à partir de ce moment-là, ben, sa condition était vraiment en souffrance. Puis c'est une personne qui a toute sa tête, là, qui était honnêtement très consciente, très là, qui riait encore beaucoup, qui était de bonne humeur et tout ça, mais qui souffrait au quotidien. Puis il y a eu des complications. Puis à un moment, ils ont dit, bien, regarde, on pourrait t'opérer, mais il y a 70 % des chances qu'on doive te réopérer à travers le temps, puis que tu viennes avec beaucoup d'inconfort puis pas de qualité de vie. T'sais. On parle d'incontinence, etc., etc. Mm-hmm. Donc, elle était tannée de souffrir, puis elle a dit, OK, mais moi, je vais prendre ma décision. Puis elle a parlé à son cardiologue, puis elle a dit, ce serait terminé. D'abord, sa famille, c'est un peu un choc pour tous parce que tu dis, elle est tellement consciente, elle est tellement là au niveau de sa tête que c'est un peu fulgurant de perdre quelqu'un pour le corps qui suit, mais la tête qui est là. Puis ça a été accepté parce qu'ils connaissent les souffrances, la dite personne. Mais tu sais, c'est une journée que tu prévois, tu sais même pas si tu vas te rendre à cette journée-là. Il y a un branle-bas de combat médical aussi autour de toi. On t'en parle, puis la personne est comme en paix, là, si elle a pris cette décision-là, est un peu en paix avec ça. Mais le jour même, là, où tout le monde s'en va ensemble, se réunir dans une salle, puis passer les dernières heures, puis que tu as le médecin qui va administrer, en fait, ce qu'il faut... qui arrive puis qui dit « Êtes-vous encore consentant, consentante? » Puis là, ça, c'est tellement réel, Jeff. Là. C'est les derniers moments où tu es capable de dire pourquoi tu aimes cette personne-là, quels sont tes souvenirs, de la rassurer aussi, de ne pas la faire sentir coupable de sa décision, de faire sentir que tout le monde va bien aller. Mais il n'y a personne, mis à part les très, très croyants, qui sait ce qu'il y a l'autre bord.
En effet.
Fait que le moment où on est rentré dans la chambre puis qu'on a entouré cette personne-là qui allait nous quitter... Puis tout le monde met un peu sa main sur elle. Puis il y a comme énormément d'amour, mais il y a aussi énormément d'inquiétude que je ressentais de se dire « Hey, je m'en vais pour vrai, c'est maintenant. C'est quoi qu'il va y avoir de l'autre bord? » Ça m'a émue parce que je sais que la personne est partie avec cette décision-là confortable, sensible, éclairée, qu'elle était en paix avec sa décision. Mais j'ai quand même senti un petit une minute là, de qu'est-ce qu'il va y avoir à l'autre bord.
Ouais.
Allez-vous être correct? C'est la dernière fois que je vous regarde. La salle, c'était une petite salle d'hôpital. On avait tous une chaise. Tout le monde était assis. Mm-hmm. Tout le monde était autour du lit. Il y avait sa chanson préférée qui jouait. Chanson qui a parsemé sa vie puis qui a traversé ses bons moments comme ses mauvais moments. Le médecin qui l'a suivi pendant des années à sa droite, qui tient la main. Son chum tant aimé d'années d'amour, de plusieurs années d'amour qui l'accompagnait dans tout ça, qui a donné un bec sur la joue, a tourné sa tête pour lui donner un bec sur la bouche, tu sais, pour dire « Je t'ai tellement aimé, on a tellement eu une belle vie. » Ses enfants autour, pleurer entre « Je vais perdre officiellement ma mère, mais en même temps, je sais qu'elle va être mieux. »
Ouais, en même temps, enfin, là, tu sais.
Qu'elle le répète, « Je vais arrêter de souffrir. »
Ouais.
Puis à un moment donné, elle ferme ses yeux, ses trois piqûres. La première, bon, c'est un calmant, la deuxième, coma, la troisième, tu pars. Puis à la première, piqûre, ferme les yeux, puis s'en va sur sa chanson en chantant. Le rapport de la mort que tu as avec l'aide médicale à mourir est tellement beau, puis en même temps tellement étrange. C'est la première fois que je voyais quelqu'un décédé sous mes yeux. Puis je peux pas te dire que c'est pas une belle expérience. C'était doux, c'était magnifique, c'était humain. Mais je pense à toutes ces familles-là qui ont accès à cette nouveauté-là, tiens, disons-le. Mm-hmm. Puis je me dis... Je pense qu'on a fait un bon coup.
Oui. En tout cas, tu as un beau message qui est rentré par courriel des personnes qui étaient avec toi justement dans ce moment-là que tu as vécu en fin de semaine. Félicitations de l'avoir fait. T'es une belle humaine, Pascal Cévé.
Ouais, c'est la famille qui est exceptionnelle, mais en tant que société, Jeff, là, ça va être ma conclusion.
Oui.
Ce genre de choses-là avec une population vieillissante, une population qui peut souffrir avec les conflits de médecins, mm-hmm. c'est une urgence de penser à comment on va finir nos jours. Où est-ce qu'on va finir nos jours? Dans quelles conditions on va finir nos jours? Puis entouré de qui?
C'est un excellent point. Justement,
un appel à vivre dans votre vie personnelle aussi.
Oui. Oui, et pour ceux qui le savent pas aussi, il y a l'aide médicale à mourir précoce qui existe, c'est-à-dire pour les gens qui ont un diagnostic d'Alzheimer. Ça leur permet justement de signer les papiers d'aide médicale à mourir avant de ne plus être capable de le faire. C'est le retour de Gravel qui suit. Merci pour cette belle histoire,
Pascal
CV. C'est vraiment plaisant. Retour de Gravel qui suit avec Denis, Véro et Nathan. Nous, on est de retour demain à midi. Bon après-midi, guys.